Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous, c'est déjà la fin du week-end. Et quoi de plus agréable que de nous retrouver pour terminer ensemble cette semaine et nous ouvrir à celle qui arrive. Passer cette fin de soirée en prenant le temps de se poser, de parler, d'écouter. Laissez donc sortir tous ces mots qui sont à l'intérieur de vous, ne les enfermez pas. Ne laissez pas vos mots devenir un monstre intérieur. Libérez-vous et permettez-vous de dire ce que vous avez besoin de dire, car vous aussi vous méritez cette opportunité. Être capable d'exprimer vos émotions et vos pensées vous donnera la possibilité d'avoir plus confiance en vous. Ne réprimez pas vos pensées et vos mots. Même si nous sommes en grande partie esclaves de nos paroles, elles nous servent aussi à nous ouvrir aux autres et à nous libérer émotionnellement. Alors si vous souhaitez prendre cette parole ce soir, un seul numéro de téléphone à composer, le 3921. Venez partager vos histoires d'amour et de rupture, vos problèmes relationnels en famille ou au travail, vos soucis d'addiction au sucre, par exemple l'aliment doudou par excellence. Venez me parler de vous et de tout ce qui fait votre vie au 3921. Au bout du fil, vous aurez Amandine ou Hassan qui vous guideront ensuite jusqu'à moi vers ce studio tout bleu propice aux confidences. Pour participer par SMS, vous faites le 7-39-21 en commençant par le mot nuit. Fabrice Fougerouze est aux manettes ce soir, on est prêt. La libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et ce soir, nous allons ouvrir cette libre antenne avec Corinne qui a bien du mal à tourner la page après la fin de son histoire d'amour. Elle va nous raconter ça dans un instant. Et c'est donc avec vous, Corinne, qu'on commence. Bonsoir à vous, Corinne.
Bonsoir, Sabine.
Oh, vous avez une toute petite voix.
Bah oui, parce que je suis pas très en forme ce soir. Ouais.
Vous n'avez pas le moral?
Si, j'ai le moral, mais c'est comme ça, quoi, voilà.
Alors racontez-moi ce qui vous arrive.
Ben, c'est pas vraiment une histoire d'amour, parce qu'une histoire d'amour, c'est à deux.
Ah.
Et mais voilà, c'est... je me suis accrochée à un homme avec qui je travaillais, que je connais au travail, ça fait 13 ans. On n'a jamais rien partagé la vie en commun, quoi, parce qu'il est divorcé avec des enfants. Et je pensais depuis 13 ans que j'allais l'aider à changer, qu'il allait m'accepter. Et en fin de compte, je me rends compte que pour lui, j'ai jamais compté, quoi, et qu'il m'a menée en bateau, et je m'en veux donc d'avoir été aussi naïve pendant toutes ces années gâchées, quoi. Et je comprends pas pourquoi j'en suis arrivée à ce stade-là, quoi.
Quelle est la différence d'âge entre vous deux?
Un an, il est un an plus jeune que
moi.
Oui,
donc il y en a quasiment pas.
Ouais.
Et lequel des deux a fait un premier pas vers l'autre à l'époque?
Lui.
C'était dans quel contexte? Au travail, vous m'avez dit?
Au travail, oui, au travail. Il venait d'être embauché sur mon lieu de travail. Il avait des gros problèmes de relationnel avec les autres. Mmh. Donc j'avais un petit peu aidé. Et puis après, on m'avait invité à boire du café chez lui. Puis il m'avait raconté un peu sa vie, son enfance. Et comme moi, j'ai une enfance un peu particulière, ça nous avait... J'avais dit, tiens, quelqu'un de sensible, enfin, un homme enfin sensible. Et puis voilà, puis en fin de compte, je me rends compte maintenant que tout ça, c'était des leurres, quoi, en fin de compte.
Est-ce qu'il y avait un rapport de hiérarchie entre vous ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Il n'a pas joué de ça, en tout cas, alors, non?
Ah non, aucun, non, du tout. Non, du tout.
Mais vous me dites que ça a duré quand même 13 ans?
Ouais, ça fait 13 ans que j'attends, oui.
Mais 13 ans que vous vivez quand même une histoire tous les deux. Il s'est passé des choses.
Oui, il s'est passé des choses, mais avec beaucoup de ruptures, quoi. Beaucoup de ruptures où c'est moi qui, de toute façon, il dit j'arrête, j'en ai marre. Et tu vas changer. Puis il me dit oui, je vais changer, tout ça. Puis en fin de compte, il y a toujours des excuses. Et puis je me suis rendu compte que dernièrement, que bon, il était un peu caractériel, un peu méchant, mais que puis après qu'il y avait plein de tics et de tocs, il a une vie très organisée. À 8 heures, il se lève, à 7 heures, il fait ci. Tous les jours, il a mangé ses parents le soir. Après, il est très rituel. Et je pensais que j'allais l'aider. Puis en fin de compte, non, quoi. Et puis c'est moi qui me retrouve toute seule, quoi.
Mais vous pensiez que vous alliez l'aider ou vous espériez qu'il s'installe avec vous pour devenir vraiment officiellement votre compagnon?
Si vous voulez, Au début, ça m'allait bien cette façon de ce que j'ai vécu en couple déjà, et ça m'allait bien cette liberté qu'on avait l'un et l'autre. Et puis après, je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, si j'avais besoin de lui, il venait pas, quoi. Passer d'abord sa vie à lui et sa relation avec ses parents et moi après, quoi.
Oui, en fait, il s'est servi de vous, peut-être. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, vous avez été bien utile pour le consoler, l'aider.
Ouais, voilà, quand il a été hospitalisé ou tout ça, moi j'y allais le voir et tout, le rassurer. Puis lui, il n'a jamais été présent quand moi, j'allais pas bien. Et malgré ça, je suis restée accrochée à lui, vous voyez. J'avais l'impression que c'était l'homme de ma vie.
Pourquoi ?
Parce qu'il était doux et qu'avec lui, je pouvais parler de tout, de tous mes problèmes personnels, voilà, de ce qu'on ne parle pas d'habitude à un homme, quoi. Il y avait cette part de féminité qui me plaisait, quoi.
Et avant lui, il y a eu qui ? Comment c'était vos histoires ?
Ouf, mon première histoire, j'avais rencontré 17 ans, je crois, oui, un garçon très bien qui voulait se marier et tout. Moi, je suis partie en courant. Parce que bon, quand j'étais jeune, j'avais pas le droit de sortir, tout ça, ni de flirter. Après, j'ai vécu 7 ans avec quelqu'un, mais mon père m'avait foutu la porte de chez moi, donc j'étais étudiante, j'étais obligée de vivre avec lui. Et puis, quand j'ai commencé un petit peu à... J'étais pas bien à vouloir demander des choses, à exister pour moi, et avec lui, on s'est séparés, quoi. Après, j'ai rencontré quelqu'un qui était divorcé, mais alcoolique, qui m'a donné une gifle et dit non, mon père m'en a mis assez, j'en veux pas. Donc... Et puis voilà, puis après, j'ai rencontré ce garçon que je croyais vraiment être l'homme de ma vie. Quoi. Parce qu'il était tout à fait l'opposé des hommes que j'avais rencontrés jusqu'à présent. Quoi.
Mais le résultat, finalement, est le même.
Ah oui, quasiment. Même pire.
Il y a plusieurs choses, Corinne, que j'entends dans votre histoire. Vous n'avez pas eu d'enfant avant.
Non.
Vous auriez voulu en avoir, non ?
Le problème, c'est que je voulais surtout pas avoir d'enfant parce que je voulais pas surtout avoir la vie qu'avait ma mère. Je ne voulais pas lui ressembler non plus, parce qu'elle s'est laissée aller après ses grossesses. Plein de choses, quoi. Et puis après, j'ai eu une grossesse, mais c'était un accident, et voilà. Et puis après, je voulais pas avoir des enfants parce que je savais que la vie n'était pas facile.
Oui. Parce que là, je me disais qu'en étant restée 13 ans avec cet homme-là, vous étiez fermée définitivement cette porte-là aussi.
Ouais, c'est ce que je réalise maintenant, quoi. Voilà.
Est-ce que ce que je voulais vous demander, est-ce que c'était vraiment un choix ou est-ce que c'est un choix subi ?
De quoi ?
De ne pas, d'avoir perdu tout ce temps-là avec un homme qui vous aurait pas fait d'enfant.
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire.
Qu'est-ce qui vous fait le plus mal aujourd'hui dans la fin de cette histoire-là ?
Dans la fin de cette histoire, ouais. C'est que qu'à 40 ans, j'aurais peut-être pu avoir des enfants encore.
Oui, c'est ça.
Vous voyez ? Que j'aurais pu construire peut-être une vie de famille et que je suis passée à côté de la vie, quoi, sans m'en rendre compte.
Mais en même temps, il y a quelque chose de plus profond que vous venez de me dire. Vous venez de me dire que je ne voulais surtout pas faire d'enfants pour ne pas lui faire vivre une vie comme la mienne, une enfance comme la mienne.
Oui, voilà, je voulais pas, je sais, c'est
donc
très difficile.
Il y a cette ambivalence de se dire, j'aurais peut-être voulu être maman, mais finalement, je suis pas sûre que j'aurais voulu être maman.
Oui, voilà, oui.
Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre enfance ?
Je suis arrivée 9 mois après mon frère, ma mère a eu 4 enfants, 5 enfants. Je sais que ma mère a fait une grosse dépression, déjà elle n'avait pas voulu, puisque j'étais en retour de couche. Elle a fait une grosse dépression, donc je sais qu'elle m'a déplacée petite chez ma grand-mère, après chez un oncle. Je suis revenue vivre chez mes parents, je crois que j'étais à l'école maternelle. Et puis après, j'ai vu, mon père était quelqu'un de caractériel, de violent, ma mère dépressive, vous voyez. Et puis après, j'ai un souvenir avec mon grand-père qui n'est pas très net, quand j'ai 2 ans et demi, 3 ans. Un oncle aussi qui était un peu incestueux, vous voyez, j'ai pas eu... Et tout ça, j'ai porté tout ça toute seule, tout le temps. Et j'ai essayé d'être la plus dégourdie, la plus grande de la famille, mais tout s'est mal déroulé. Quoi.
On vous a pas laissé votre place de petite fille tranquille, quoi.
Non, voilà, longtemps j'ai dû soutenir ma mère, j'ai essayé de la protéger. Longtemps, j'ai essayé de mon père bricoler à la maison, je l'aidais et tout, pour essayer qu'il n'ait pas de colère. Voilà. Je crois que j'ai pas eu d'enfant, j'étais l'adulte trop grande, et puis après, à 20 ans, je me suis redevenue une adolescente que j'étais pas, quoi. Que j'ai pas pu être, quoi.
Vous avez dit aussi tout à l'heure, mon père m'a foutu dehors, c'était quand ça?
Ben, mon père, il m'a. Ben, donc, j'avais 20 ans, je flirtais avec le garçon avec qui j'ai vécu 7 ans, et j'étais rentrée très tard le soir, et mon père et ma soeur m'attendaient le lendemain, on veut plus de toi.
À 20 ans?
Ouais.
Vous n'étiez pas libre à 20 ans de faire ce que vous vouliez?
Non, je me rappelle, j'ai fait 11 km à pied la nuit pour aller chez une copine, quoi, voilà. Ouais. Et tout ça, voilà. Bon.
Ce que j'entends de votre histoire, Corinne, c'est qu'il y a beaucoup de rejets.
Oui, beaucoup.
Et c'est cette blessure de rejet que vous rejouez en boucle avec les hommes que vous rencontrez. Inconsciemment,
ben,
bien sûr.
Ouais. Bah, j'ai l'impression de ne pas être bien, vous voyez, ni physiquement, ni moralement, ni bien physiquement. Et j'ai pas l'impression de, oui, que j'ai pas le droit de. Non, on n'avait pas le droit de demander quoi que ce soit, vous savez, quand on était enfant. Et voilà, et c'est vrai que moi, toute ma vie, j'étais comme ça, j'ai jamais osé demander quoi. Et quand j'ai demandé, on m'a abandonné, vous voyez.
Oui. C'est un peu comme si depuis toujours, vous aviez laissé les autres définir qui vous êtes et ce que vous avez le droit d'être.
Ouais, ouais.
Il va peut-être être temps de reprendre les rênes de votre vie et de prendre votre place, Corinne.
Bah, je sais pas, parce que 53 ans, c'est un peu râpé, quoi, quand même.
Mais je suis pas d'accord avec ça. Régulièrement, j'entends des gens qui me disent 40 ans, c'est trop vieux, 50 ans, c'est trop vieux. Trop vieux, pourquoi?
Oui, toi aussi, trop vieux, parce que, mais je le vois même au travail. Enfin, je veux dire, on est trop vieille, quoi. Mais ça, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il faut pas que ça. Il faut que ça serve aux autres, quoi.
On n'est jamais trop vieille, Corinne. C'est juste. C'est le problème, c'est ce qui se passe dans notre tête.
Oui,
on peut être très heureux à n'importe quel âge. Oui, parce que là, quand on est comme ça, dans un moment où ça va pas, on voit tout en noir.
On a l'impression que. Un peu fatiguée, ouais.
On a l'impression qu'on n'en sortira jamais, mais c'est pas vrai, on en sort un jour. Est-ce que vous.
Je sais pas.
Est-ce que vous vous êtes fait aider d'une manière ou d'une autre?
Oui, justement. Oui, parce que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, tout ça. Mais c'est vrai que ce qui m'a fait garder cet amant, c'était que mon psychiatre me disait pof, prenez ce qu'il y a à prendre, quoi. Bon, donc moi je me suis toujours, je l'ai écouté plus ou moins, quoi, mais je sais qu'il n'y a rien à prendre.
Prendre ce qu'il y a à prendre, il faut avoir beaucoup de détachement et être très bien avec soi-même pour le prendre comme ça. Ce sont des belles paroles, mais quand on est aussi sensible que vous avez l'air de l'être, on ne prend pas ce qu'il y a à prendre, on prend tout dans les dents.
Oui, j'ai tout pris dans les dents.
Oui, c'est ça.
Et ailleurs, ouais. Oh, il m'a fait des reproches il y a longtemps, hein, comme quoi j'étais pas belle, que je me soyais les dents aussi, et là, vous voyez, des trucs très très durs. Hein, mais voilà, c'est. Bon, ben, c'était ma vie, c'était mon destin, je le prends comme ça, quoi. Et j'aimerais bien arriver à être plus autonome dans ma tête, quoi.
Moi, j'aimerais bien que vous arrêtiez de prendre toutes les choses négatives qu'on vous met sur le dos.
Mais oui, mais je ne suis pas très positive. Enfin, je n'ai pas beaucoup de qualités, vous savez.
Ah, c'est moi, je crois que si. C'est les autres qui, depuis que vous êtes petite, qui vous font croire que vous n'en avez pas. Et il serait temps d'arrêter de les croire, les autres.
Ben, vous savez, mes parents, ils ne m'ont pas tellement pardonné, ni ma sœur, tout ça, quoi. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui m'a dit...
Pardonner quoi?
Pardonner de ne pas être comme les autres.
Qu'est-ce que c'est être comme les autres pour vous?
Comme les autres, c'est peut-être être plus docile, je sais pas, moins, être rentré plus dans le rang, avoir assumé mon rôle de femme, mon rôle de gentille petite fille qui reproche rien, qui accepte la vie, quoi.
Mais ça serait rentré dans le moule que vos parents auraient voulu dessiner pour vous. Aujourd'hui, vous êtes une adulte.
Oui, je sais, oui.
Vous n'avez pas besoin.
Mais que dans l'âge.
Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour faire ce que vous voulez. Vous savez, je donne souvent cette image que j'aime bien. Quand on est petit, on aimerait bien attraper le pot de confiture qui est tout là-haut dans le placard. Puis on n'y arrive pas parce qu'on est trop petit. On a besoin d'aide. Mais un jour, on se rend compte qu'on a grandi. Et qu'on n'a qu'à tendre le bras pour prendre le pot de confiture. Vous êtes grande aujourd'hui. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour avancer.
Ouais, je crois. Mais j'y arrive pas. Oui.
Alors c'est pour ça que je vous demandais, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un thérapeute qui vous suit?
Non, depuis un an, je vois plus personne. Et puis là, je prends plus de médicaments. Je veux plus.
Bon, ça, les médicaments, c'est pas à moi de juger. Que vous ne voyez plus personne, ça me semble un petit peu dommage.
Bah, si vous voulez, parce qu'on m'a dit que je suis trop vieille, que j'ai tellement eu d'années à faire un travail sur moi qui n'a pas abouti, quoi.
Pardon, redites-moi cette phrase. Qui vous a dit ça?
Mon psychiatre.
Il vous a dit que vous étiez trop vieille?
Non, si vous voulez, je suis restée très très longtemps dans un réseau de soins. Et le psychiatre à l'époque m'avait dit, qui est un peu désespéré, je peux rien faire pour vous, quoi. Et le dernier que j'ai vu, que je trouve très gentil, un jeune, m'a dit que ça fait tellement d'années que je suis suivie tellement d'années qu'on n'arrive pas à trop grand-chose, que le pauvre, malheureusement, il voit pas trop ce qu'il peut faire pour moi.
Oui, alors pardonnez-moi, j'ai toujours un peu de mal quand j'entends ce genre de choses, parce que je pense qu'il n'y a pas de cas désespéré et qu'on peut toujours aider quelqu'un à avancer. Si la thérapie que vous avez entamée n'est pas la bonne, il y en a d'autres.
Ouais.
Il y a des thérapies comportementales, il y a l'hypnose, il y a le MDR, il y a plein de thérapies qui sont plus rapides que ça.
Oui, mais j'avais fait un peu d'hypnose avec un kiné et de l'MDR, et j'ai eu donc des attaques de panique que j'avais jamais.
Oui, ça, c'est pas normal non plus. Je ne sais pas ce qui vous a fait, mais par définition, ce sont, ouais, sont des thérapies qui apaisent quoi qu'il se passe. Donc,
ouais, je vous assure.
Peut-être pas tombé sur la bonne personne.
Oui, voilà. Et puis bon, après, maintenant, je vous dis sincèrement, je suis un peu fatiguée de tout ça. J'ai plus, même physiquement, j'ai plus la force de prendre du temps pour ça, quoi.
Mais oui, mais en même temps, Corinne, il n'y a que vous qui pouvez prendre les rênes de votre vie pour sortir de là.
Oui.
Fermez la porte du passé, vous tournez vers l'avenir.
Oui.
Il n'y a que vous qui avez ces rênes-là entre les mains. Un pas après l'autre. Vous savez, souvent, quand ça nous paraît insurmontable, c'est parce qu'on regarde le bout, l'objectif. J'aimerais être comme, oui, ça. Et je peux pas être, ouais, comme ça tout de suite. Non, mais je peux avancer un pas après l'autre.
Ouais.
Peut-être trouver un nouveau thérapeute. Peut-être trouver une activité qui vous fasse du bien. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous travaillez déjà?
Non, oui, je travaille, heureusement. Et... heureusement, j'ai même plus envie d'y aller.
Oui, mais ça, c'est parce que vous traversez une phase un peu sombre, là. Mais au moins, vous avez un boulot, vous êtes autonome financièrement.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est extrêmement important, déjà. Et peut-être...
Par contre, je voulais...
Oui, dites-moi.
Je voulais vous poser une question, excusez-moi de vous couper. Pourquoi cet homme-là s'est moqué de moi depuis toutes ces années, quoi? Comment j'ai réussi à être à ce point naïve, quoi?
Alors, je ne connais pas l'histoire de l'intérieur. Pourquoi? Je ne pourrais pas vous le dire, mais globalement, ce sont les gens qui manipulent comme ça, sont extrêmement doués. N'imaginez pas que vous êtes plus naïf qu'une autre. Il y a plein de gens, il y a des femmes extrêmement intelligentes, brillantes, qui se font avoir de la même manière. Parce que vous êtes dans une sorte de dépendance affective et que certains hommes le sentent.
Oui. Ouais.
Quand ils sentent une fragilité comme ça, c'est facile, entre guillemets.
Ouais.
C'est pour ça que je vous dis
mais
que...
Mais ils vieillissent aussi.
C'est-à-dire
Je veux dire que dans quelque part aussi, de toute façon, quelque part, je vais plus pouvoir utiliser les femmes parce qu'ils n'auront plus les moyens physiques de le faire.
Bon, ils trouvent autre chose. Ce sont souvent des hommes qui utilisent l'argent après, plus tard. Quand ils n'ont plus la séduction physique, les manipulateurs trouvent toujours un moyen, un levier, vous savez, pour manipuler.
D'accord.
Et malheureusement, dès qu'ils perçoivent une femme qui a une fragilité, une dépendance affective, c'est tellement plus facile, quoi.
Ouais.
Mais vous savez, je vous dirais, au bout d'un moment, en vouloir à l'autre, sans vouloir à soi-même, ça n'a plus tellement d'importance. Ce qui compte,
non,
c'est d'avancer.
Non, c'est pas ça. Oui, ouais. Ouais, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi je suis restée là-dedans, quoi. Vous voyez, c'est pourquoi... Pourquoi j'ai pas pu, j'ai pas osé avancer, quoi.
Parce que vous rejouez inconsciemment cette blessure de rejet et que vous avez très très peur qu'on vous rejette.
Ouais, ouais.
Et c'est sur ça qu'il faudrait travailler avec un thérapeute. Retravailler l'estime de vous, reprendre votre place pour ne plus être dans cette dépendance-là. Et pour que la prochaine fois qu'il y a un homme qui se comporte comme ça, vous ayez suffisamment de force en vous pour vous dire non, non, mais moi je mérite mieux que ça. Non, merci. Au revoir.
Ouais,
oui, j'entends le... Mon Dieu. Mais oui.
Oui, mais moi, le problème, c'est que je ne me laisse pas aborder par les gens, entre guillemets, des normaux, quoi. C'est ça le problème, quoi. Je suis très, très froide, quand même. Très méfiante, très.
Bah oui et non. Vous êtes très méfiante, mais en même temps, dès qu'il y a un manipulateur qui creuse, qui trouve un peu la faille.
Oui.
Et oui.
Ouais.
C'est pour ça que je dis qu'avant de penser à quelqu'un d'autre ou à vous reconstruire émotionnellement, enfin, amoureusement, il faut vous reconstruire vous d'abord.
Ouais.
Être suffisamment bien avec vous-même pour ne plus avoir besoin d'un autre, mais juste envie d'un autre. Et là, ça change tout.
Ah, Ah oui, j'ai jamais eu la notion d'envie, non, c'est vrai.
Eh oui.
Juste...
Quand on est dans le besoin de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, on est dans la dépendance. Quand on est dans l'envie, on est dans le plaisir. Et là, on reprend le contrôle. J'ai envie, ça me convient, très bien. J'ai envie, ça ne me convient pas, j'arrête. Quand j'ai besoin, aïe. Quand j'ai besoin et que ça me convient, ça va. Quand j'ai besoin et que ça ne me convient pas, je suis coincée. Et c'est visiblement le schéma répétitif que vous avez joué à chaque histoire.
Ah oui, à chaque histoire, ça a été ça, oui. Mmh. Sauf le premier, mais j'ai pas vu de lui, j'ai eu trop peur.
Oui, là, vous l'avez fait dans l'autre sens, c'est vous qui avez rejeté.
Oui, voilà, oui.
C'est un grand classique de cette blessure-là aussi.
Bon, bah, écoute,
mais on s'en sort en travaillant là-dessus, vraiment, hein, vraiment.
Oh, oui, non, ce que j'aimerais, c'est ne plus être en colère contre moi, voilà, c'est surtout, voilà.
C'est pour ça que je vous parlais de restaurer l'estime de vous-même. Arrêtez de vous auto-flageller en vous disant « j'ai été trop naïve, c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute ». Non. C'est de la faute de ce que vous avez vécu, c'est de la faute de la vie, des blessures que la vie vous a infligées.
Ouais.
Et à un moment donné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ok, c'est de la faute à plein de choses, mais ce qui compte, c'est de se tourner vers la suite.
Oui, voilà, le passé, c'est le passé, ça, je suis consciente maintenant.
Et quelquefois, la vie peut changer bien plus vite qu'on l'imagine, vous savez.
Je ne sais pas, j'espère quand même, oui.
Ah, j'aime bien ce petit sourire-là que j'entends dans votre voix.
Ouais, j'espère avoir des bons moments quand même, je crois qu'on le mérite tous un peu quand même.
Bien sûr.
Voilà.
Trouvez-vous vraiment un thérapeute bien? Allez essayer l'hypnose.
Ouais.
Allez faire d'autres choses, que ce soit la sophrologie, d'autres thérapies, des thérapies, ce qu'on appelle orientées solutions, des thérapies courtes. Effectivement, ne repartez pas dans 10 ans d'analyse ou de conversation. J'ai l'impression que ce n'est pas votre truc et que ça ne vous a pas amené très loin. Mais cherchez des thérapeutes qui vous proposent des solutions à court et à moyen terme.
Et Sabine, vous pensez que l'hypnose, parce que là où j'habite, j'ai vu des médecins qui pratiquaient ça, et bon, je suis un psychiatre ou un médecin généraliste?
Je n'ai pas d'avis là-dessus. Le problème, c'est que c'est une question de personne. Très honnêtement, je connais des hypnothérapeutes qui ne sont pas des médecins, qui sont exceptionnels. Des médecins qui pratiquent l'hypnose n'importe comment et l'inverse. Ça, c'est pas une question, c'est pas une question d'étiquette, c'est une question de personne.
D'accord,
le mieux, c'est toujours le bouche à oreille. C'est toujours d'essayer de vous mettre sur des forums, de voir où la personne a été formée, si quelqu'un a déjà fait des séances avec lui ou avec elle. Comment maintenant, avec Internet, il y a quand même beaucoup de retours sur les thérapeutes. Hein. Et puis tout simplement, en faire un rendez-vous.
Oui.
Vous êtes la personne la mieux placée au monde pour savoir ce qui vous convient.
Mmh. Oui, c'est vrai.
Vous n'avez rien à perdre à y aller une fois. Et, vous savez, ça va très vite. Hein, le contact, le ressenti, comment on se sent après la séance, ça permet déjà de se faire une idée soi-même. Et si ça vous convient, alors vous aurez trouvé quelqu'un qui va vous prendre par la main et vous sortir de là.
Ouais.
Et vous ramener sur un chemin plus lumineux.
Oui.
Hein?
Peut-être un peu tard, mais peut-être un peu.
Arrêtez avec ce trop tard. Il n'est jamais trop tard. Chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour qui se lève peut apporter plein de choses. On ne sait jamais d'avance ce qui va nous arriver. Jamais. Et on n'est pas à l'abri que ça se passe bien, figurez-vous, des fois.
Je ne sais pas, j'espère. Je vous dirai. Bon, je vous remercie beaucoup, quand même.
Merci à vous d'avoir appelé.
Pour cette aide, quand même. Et merci à tout le monde. Voilà.
Et je vous embrasse, Corinne.
Et bonne soirée, moi aussi, je vous embrasse. Et merci à Amandine aussi et à San. Voilà.
C'est gentil, merci.
Et bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Alors, oui, on va enchaîner tout de suite. Simplement, je ne sais pas qui je prends derrière. Est-ce que j'ai Guillaume en ligne par hasard? Ah, Geneviève, pardon. Geneviève.
Oui.
Ah,
oui.
Voilà, pardon. J'étais pas sûre de vous avoir en ligne, Geneviève. Vous êtes bien là?
Oui, je suis là, je vous écoute, oui.
Bonsoir, c'est moi qui vais vous écouter surtout.
Oui, d'accord. Bon, je vais essayer de ne pas parler trop vite, voilà. Je suis la grand-mère d'une fratrie de 3 petites filles et c'est la deuxième qui m'inquiète un petit peu. Elle a 8 ans et demi, elle est venue après une grande sœur qui n'a que 21 mois de différence.
Mmh.
Elle est née avec des circulaires du cordon autour du cou.
Ah,
et c'est une enfant qui a toujours été en compétition avec sa plus grande sœur.
Mmh.
Alors, quand elle était à la crèche, elle était coquine, elle en faisait voir de toutes les couleurs au personnel. Maintenant, elle est à l'école. Et l'autre jour, ma fille me téléphone en me disant qu'elle l'avait emmenée chez l'ORL parce qu'elle se demandait si elle n'avait pas des problèmes d'audition. Et elle me dit, elle fait d'énormes difficultés en classe pour être attentive. Et quand elle est à la maison, après, elle a des idées qui partent dans tous les sens. Elle pense à un tas de choses en même temps. Et on lui pose une question et elle répond à côté parce qu'elle a autre chose dans la tête. Alors, ça me perturbe un petit peu, ça.
Est-ce que votre fille a essayé de voir si elle est pas hyperactive ?
Non, parce que j'ai essayé de lui faire des suggestions, mais elle n'en tient pas compte. Et moi, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça. C'est une enfant qui est casse-cou. Je me rappelle, elle n'avait pas 2 ans. Elle quittait la piscine un jour et tout d'un coup, ma fille entend un gros plouf. Et elle avait plongé dans le grand bain comme ça, volontairement. Hein. Et elle était très casse-cou, plus quand elle était petite fille que maintenant, ça passe un petit peu. Mais enfin, c'est une enfant qui n'a peur de rien.
Ça vous avait dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit qu'elle est née avec le cordon autour du cou.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai déjà parlé de ça à l'antenne. Plusieurs études, alors ce n'est pas du 100%, mais oui. Plusieurs études ont suivi 300 bébés pendant 30 ans.
Oui.
Et il s'avère que la manière dont on arrive au monde peut influencer notre caractère. Et je vous avoue que moi, je me rends compte en cabinet quasiment tous les jours.
Oui.
La grande majorité des enfants qui sont très très speed, qui prennent beaucoup de risques et qui font des sports extrêmes, des adultes, qui ont besoin d'adrénaline tout le temps, sont des bébés, comme par hasard, qui sont nés avec le cordon autour du cou.
Ah oui.
Ils ont besoin de retrouver l'ivresse de ce manque d'oxygène.
Oui.
Dans un autre exemple, parfois, ce sont les enfants qui sont nés au forceps,
oui.
Qui sont souvent des ados ou des adultes, qui ont un fichu caractère, si je résume. Grosso modo, il faut pas les prendre en frontal, ils montent dans leur tour assez rapidement.
Oui.
Donc il est possible que cette petite fille ait gardé quelques traces émotionnelles
oui.
de sa naissance et que ça puisse influer un tout petit peu. Ça ne détermine pas, bien sûr, l'ensemble des choses. Mais
oui.
ça joue un petit peu sur le caractère et le comportement. Si vous me dites que c'était une petite fille casse-cou dès le début, qui avait besoin de, de pousser dans les extrêmes. Quoi.
Ah oui, non, mais quand elle était à la crèche, elle n'avait pas 2 ans. Pendant la sieste, elle faisait semblant de dormir. Elle respirait d'une manière très régulière pour que l'auxiliaire croie qu'elle dormait, que le dortoir était calme et elle pouvait sortir. Et quand elle voyait l'auxiliaire partir, elle se levait, elle allait embêter les autres, prendre la tétine ou le doudou. Vous voyez, c'est le genre d'enfant à faire des choses comme ça.
Oui, elle a oublié d'être bête en même temps. Elle a compris comment fonctionne.
Hein. Oui. Mais alors, elle écrit très très mal. Elle a des difficultés à écrire correctement entre les lignes. Alors bon,
à 8 ans et demi.
Oui.
Est-ce qu'une maîtresse ou un maître d'école un jour vous a alerté sur quelque chose ?
Non, jamais. Non.
Bon. Qu'est-ce qui vous ennuie vraiment alors ? Ou qu'est-ce qui ennuie sa maman ?
Eh ben, c'est ce que sa maman m'a dit, qu'elle est un peu dans son monde. Elle me dit l'autre jour, on était assise à table et sa fille aînée s'est levée. Ma fille a fait échange avec sa fille aînée. Et la seconde la regarde et lui dit « Pourquoi tu es venue ici ?» Alors elle a pensé qu'elle parlait de la place de la table. Mais non, c'est parce qu'elles ont déménagé il n'y a pas longtemps et elle pensait à la maison dans laquelle elle habitait maintenant. Et c'est tout le temps des réflexions comme ça en ce moment.
Il date de quand ce déménagement ?
De l'année dernière, il y a un an.
D'après ce que vous me dites, en même temps, elle avait une attitude qui était à peu près la même avant le déménagement.
Oui, oui.
Ça, c'est pas quelque chose qui ait fondamentalement changé son caractère.
Bon. Ah non, mais bon. Vous voyez, elle pose une question... Elle s'imagine qu'on pense la même chose qu'elle, et quand on répond à côté, mais elle est étonnée parce qu'elle, elle avait autre chose en tête. Elle pensait à autre chose, mais elle n'avait pas précisé ce qu'elle avait, donc on ne répond pas à sa question.
Oui, elle a peut-être un mode de fonctionnement différent de sa sœur et de sa mère, mais ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a aucune maîtresse, ni directrice ou directeur d'école vous a alerté de quoi que ce soit.
Non, jusqu'à maintenant, non.
Bon, vous savez qu'ils sont quand même bien placés quand il y a un doute sur une pathologie,
oui.
sur un problème. De manière générale, ils vous préviennent.
Oui. Ben oui.
Et vous, si je comprends bien aussi, ce qui est compliqué, c'est que votre fille ne veut pas trop entendre vos suggestions, comme vous dites.
Non, et puis en plus, on est loin, donc on est à 800 km et on se voit... avant, j'allais plus souvent chez elle, mais maintenant, j'y vais moins. Et on se voit à peu près 3 fois dans l'année, donc c'est difficile de parler de ça au téléphone aussi...
Mais est-ce qu'elle s'en plaint, votre fille, auprès de vous ?
L'autre jour, elle m'a dit qu'elle l'emmenait chez l'ORL parce qu'elle pensait qu'elle avait un problème d'audition. Alors, ça m'a quand même un peu étonnée. En fait, l'ORL n'a rien trouvé, pas de bouchon, rien du tout.
Elle n'est pas sourde, elle est têtue, non ? C'est ça ? Et souvent, c'est la première réaction des parents. Non, en fait, elle n'obéit pas parce qu'elle n'entend pas, mais pas du tout.
Non, mais là, elle se demandait vraiment si elle n'avait pas un bouchon, un autre problème. Bon, elle m'a dit, à la limite, j'aurais préféré qu'on me dise qu'il y avait quelque chose.
Ah oui, donc elle se pose quand même des questions, votre fille.
Oui.
Il y a un papa dans l'histoire ?
Alors, les parents sont divorcés et ils font la garde alternée.
Et ça se passe comment ?
Eh bien, maintenant, bien avec le papa, parce qu'autrefois, il ne s'en occupait pas. Et les rapports entre la fille et le père n'étaient pas formidables, parce qu'on avait l'impression qu'elle était plus intelligente que son père.
Parce que, c'est ça ce que j'entends. Ce qui est possible aussi, en dehors de l'histoire du cordon, c'est que dans une situation comme ça, cette petite fille a un besoin de prendre une place peut-être qui n'est pas la sienne. Elle en fait beaucoup pour qu'on la remarque et qu'elle prenne bien sa place.
Je me suis demandé si elle avait trouvé sa place. Quand on disait « elle ne tient pas en place », je me demandais si elle avait trouvé sa place.
Tout à fait.
Ouais.
Il y a quelque chose comme ça qui se joue là.
Ouais.
Il n'y a plus un papa à la place du papa.
Oui.
Il y a peut-être quelque chose comme ça qui fait qu'elle a inconsciemment, bien sûr, parce qu'elle est trop petite pour intellectualiser ça, mais je me fais beaucoup remarquer pour prendre une place qui n'est pas forcément la mienne.
Oui, oui.
Et sa grande sœur est comment ?
Très calme, très posée, c'est pas du tout le même caractère. Mmh. Elles sont différentes toutes les deux.
Elles s'entendent bien ou il y a une rivalité entre elles ?
Oh ben, ça se bagarre pas mal. Hein.
Ouais. Oui, avec le caractère de la seconde, c'est un peu logique.
Ah oui, oui.
Elle doit être un peu dans la provoque aussi, j'imagine.
Ah oui, oui, oui. Mmh.
Et la maman, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Vous pensez qu'elle n'a pas envie de l'amener voir un thérapeute ?
Ben, j'ai l'impression, oui. Alors, je voudrais lui en parler, mais je voudrais y aller doucement pour ne pas la brusquer et que ça aboutisse à quelque chose. Parce que ce sont des enfants qui voient le médecin une fois tous les 36 du mois. Hein. Comme elles ne sont jamais malades, il n'y a pas de suivi non plus.
Oui, tant mieux. Ça, c'est plutôt...
Oui.
Je vous dis, le suivi important, il est quand même à l'école avec des professionnels qui sont là. Donc, il y aura un vrai problème. Je pense que vous auriez été alerté.
D'accord.
Est-ce que votre fille ou vous avez déjà fait des thérapies ? Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez librement à la maison ?
On n'en a jamais fait, non.
Ah oui, donc c'est ça, vous avez du mal à... Comment amener ça sur le tapis ?
Ben oui, je voudrais pas la vexer parce que ma fille est assez susceptible, donc je voudrais pouvoir en parler, mais librement, en lui disant, ben, je pense peut-être que ça serait pas mal. Comme tu m'as dit que tu croyais qu'elle avait des problèmes auditifs, peut-être que ça serait intéressant de voir quelqu'un d'autre, mais bon...
J'aime bien ce que vous venez de me dire tout à l'heure sur ce problème de place. C'est peut-être une manière d'aborder ça sans parler de pathologie ou de quoi que ce soit.
Oui.
De dire que peut-être, effectivement, cette petite fille, elle n'est pas exactement à la place où elle devrait être.
Ben oui.
Ou en tout cas, elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en désaccord. Elle n'est pas centrée.
Oui.
Et peut-être en commençant à aborder ça doucement avec votre fille.
Oui. Et puis, je me souviens que quand elle était petite, elle n'avait pas un an... Et elle regardait les adultes en les fixant, et ça les mettait mal à l'aise. Mais je pense qu'elle les fixait, mais qu'elle avait déjà autre chose dans la tête, qu'elle pensait à autre chose qu'à la personne qui était en face d'elle.
Oui, j'ai l'impression que ça va très vite hein, dans la tête de cette petite fille-là.
Ah oui, oui, oui.
Ouais.
Ouais.
Ou alors, ce que vous pouvez faire, parce que ça, c'est aussi valorisant, de dire à votre fille qu'il ne serait pas inintéressant de lui faire faire un bilan à votre petite fille.
Mais j'en ai déjà parlé, un bilan de psychomotricité. Alors, mais elle m'a dit « off ».
On peut amener ça différemment.
Oui.
On peut se dire qu'elle va bientôt rentrer en sixième, enfin bientôt, dans deux ans, un an et demi.
Dans deux ans, oui.
Et que pour savoir dans quel genre d'école elle peut aller, parce qu'il y a des écoles qui ont des exigences différentes, des niveaux d'exigences différents, c'est pas inintéressant d'avoir un petit bilan. Savoir en quoi l'enfant est bon. Vous savez qu'il y a 8 sortes d'intelligence, c'est important de comprendre ça aussi.
Oui.
Les 8 intelligences. Et d'accord. Peut-être pouvez-vous amener ça sur le terrain avec votre fille en lui disant, écoute, voilà, ce serait peut-être bien de faire une étude de profil. Ne pas parler de bilan psychologique, parce qu'à son âge, c'est pas ce qu'on fait, mais avec une pédopsie qui peut faire ça.
Oui.
Et qui pourrait commencer à lui faire un bilan pour savoir comment mieux l'orienter pour l'école. Vous savez, il y a différentes catégories d'éducation dans différentes écoles.
Oui.
Ça peut être une manière d'aborder ça par un biais plus positif que thérapeutique.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire dans un premier temps ?
Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai préféré vous appeler pour avoir vos conseils, parce que je vais sur des œufs.
Je vais vous retirer ça de la bouche, j'allais vous dire, vous marchez sur des œufs. Je comprends.
Oui, absolument.
C'est tout en votre honneur, parce que c'est toujours un peu compliqué d'intervenir comme ça dans l'éducation de ces petits-enfants.
Oui.
Même si votre rôle est très important, c'est vrai que vous êtes en deuxième position derrière la maman.
Et puis en plus, j'ai été puéricultrice, alors des enfants, j'en ai rencontré aussi. Et bon, c'est pour ça que je l'ai beaucoup observé aussi, et que bon. Pendant un temps, je n'entendais plus parler de rien. Je me dis, bon, ben, tout a l'air de bien fonctionner. Et quand elle m'a parlé de de la consultation chez l'ORL l'autre jour, ça m'a quand même un peu,
oui, bien sûr,
un peu contrariée.
C'est pour ça, si vous l'amenez par ce biais-là, ce qui peut être intéressant,
oui,
c'est que quelqu'un qui lui fera un bilan pour l'orienter au mieux vers une école pourra aussi déterminer,
oui,
s'il y a d'autres choses.
D'accord.
Une hyperactivité, peut-être une précocité,
oui,
peut-être un haut potentiel, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est, oui, quelqu'un qui pourra plus ouvertement parler à votre fille, vous voyez ce que je veux dire ?
D'accord. Alors, j'avais lu une fois un livre sur les enfants qui avaient des difficultés, qui étaient hyperactifs, et on disait que souvent, ils manquaient de magnésium. Alors, j'avais essayé d'orienter ma fille dans ce sens-là, mais bon, je n'ai pas eu de succès.
Alors, je ne sais pas trop quoi vous dire, parce que j'ai quand même l'impression,
oui,
qu'on a tendance à mettre le magnésium à toutes les sauces.
Ah oui.
Dès qu'il y a quelque chose qui déraille, on manque de magnésium. Je
ne, ah, oui,
suis pas sûre que ça soit la pilule miracle non plus. Hein.
Oui, oui.
Surtout sur un enfant.
Oui, oui.
A priori, un enfant qui est bien nourri manque de rien, il n'y a pas de carence.
Eh bien, voilà, oui. Mais...
Après, c'est pas... Est-ce qu'elle fait du sport, cette petite fille ? Ça aussi, ça serait une bonne voie.
Elle faisait du judo, et quand ses parents se sont séparés, ben, c'était compliqué, et maintenant, elle n'en fait plus. Et ça, j'ai trouvé ça très dommage, parce,
oui,
que ça l'a aidé à se contrôler un petit peu, et c'était, je trouve que c'était très bien, ça lui allait tout à fait.
Elle a besoin de canaliser, et surtout pour elle, à mon avis, ce qui serait très intéressant, c'est le théâtre.
Ah oui.
Et oui.
Elle aurait une mode d'expression.
Une petite fille qui a besoin de prendre sa place comme ça, qui est sur une,
oui,
scène, qui a besoin de s'exprimer, de se faire remarquer,
oui,
plutôt que de le faire à la maison, elle peut canaliser ça au théâtre.
Oui, oui, oui. Ah oui, ça, je vais suggérer ça à ma fille, oui.
Et ça, ce sont des activités qu'on trouve à peu près partout maintenant.
Oui, oui, oui. Mais le problème, c'est qu'étant donné qu'elle n'habite pas la même ville que le papa, c'est une semaine sur deux,
oui,
tout change. Alors, c'est compliqué à organiser quelque chose.
Oui, ça, je sais bien,
oui.
Mais il y a des solutions quand même à tout, je pense.
Oui, oui, oui.
Question d'organisation, après, je ne dis pas que c'est simple, mais ça vaut le coup de creuser un petit peu tout ça pour elle, pour l'aider, quoi.
Oui, ben oui.
Oui.
Mais par contre, elle a une imagination fertile. Hein. Vous lui donnez une boîte de cubes en bois et des Playmobil, elle se raconte des histoires toute seule, elle invente des histoires, enfin... Elle est débordante d'imagination.
Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de la faire diagnostiquer.
D'accord.
J'ai l'impression qu'elle a un cerveau qui fonctionne plus vite que la,
oui,
normale.
Oui, je pense aussi, oui.
Et qu'il faut se servir de ce potentiel-là, au contraire.
D'accord.
Il faut plutôt annoncer ça à votre fille comme quelque chose de positif, à condition que votre,
oui,
petite fille soit bien encadrée dans tout ça.
D'accord.
Bien orientée. Et
bah,
puis, je vous invite à découvrir les livres de Tony Buzan. Je ne sais pas si vous les connaissez.
Ah non, du tout.
Qui s'appelle Dessine-moi l'intelligence, pour travailler avec elle sur des mind mapping. Le mind map, c'est...
Décris-moi l'intelligence.
Dessine-moi l'intelligence.
Ah pardon, oui.
De manière générale, découvrez tous les livres de Tony Buzan. Tony, c'est écrit T-O-N-Y.
Oui.
Buzan, B-U-Z-A-N.
Oui.
Il y a plein de livres qui sont passionnants sur le cerveau.
D'accord.
Sur les différentes formes d'intelligence.
Oui.
Sur le mind mapping, qui est une forme d'expression qui devrait beaucoup plaire à votre petite fille. Ce sont les cartes heuristiques.
D'accord.
Vous découvrirez tout ça avec Tony Buzan.
Oui.
Même sur Internet, tapez simplement Mind Mapping ou Tony Buzan, vous allez découvrir plein de choses.
D'accord.
Ça pourrait intéresser votre fille et votre petite fille aussi, ça.
D'accord. Bon.
Des modes d'apprentissage différents, des modes d'expression,
oui,
différents.
D'accord.
Parce qu'on ne sort pas tous du même moule et on ne fonctionne pas tous de la même manière.
Ah non, non, ça c'est sûr, oui. Oui, oui, oui. D'accord.
D'accord.
Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour ces conseils.
Avec plaisir, je vous souhaite bonne chance.
Eh ben,
je,
merci,
trouve que cette petite fille a beaucoup de chance d'avoir une grand-mère qui s'intéresse autant à elle, c'est chouette.
C'est vrai.
Ben oui.
Mais je regrette qu'on soit loin parce que je voudrais bien en profiter davantage, mais bon.
Vous avez déjà un très joli lien, profitez-en bien.
Oui, oui, oui. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, Sabine. Bonne
merci
soirée.
De votre appel, Geneviève, je vous embrasse. Au revoir.
Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue sur cette libre antenne.
Merci à vous.
Alors
merci
on va juste avoir le temps de faire connaissance avant de faire une petite pause pour les infos, mais on aura largement le temps de se retrouver après, rassurez-vous.
D'accord, très bien.
Racontez-moi
très bien.
Un petit peu votre histoire alors.
Alors, donc en fait, moi je vous appelle pour avoir quelques conseils. En fait, j'ai rencontré quelqu'un, un jeune homme, fin décembre, totalement par hasard, sur un site de rencontre.
Ah, c'est pas du hasard alors.
Bah en fait, si, parce qu'en fait, j'étais pas du tout en recherche, j'étais inscrit, mais voilà, enfin, sans plus. Et il est venu me parler, donc sachant que moi, j'habite dans la région du Nord, Et lui, il est de Gand, en Belgique.
Quand vous dites vous parlez, c'est par écrit au départ?
Oui, c'est par écrit, oui, tout à fait. Ouais. Donc il me parle en néerlandais, en flamand. Bon, moi, je réponds, hein. Enfin, voilà.
Vous comprenez le néerlandais?
En fait, pas du tout, mais grâce à Internet, voilà. Donc, bon, bah, on discute tout ça, on fait connaissance, ça se passe très bien. Il parle un peu le français, on se rencontre, tout va bien. Tout de suite, on se rencontre la première semaine, voilà. C'était le 22 décembre. Tout de suite après, il m'invite à Paris pour les fêtes de fin d'année, donc pour Nouvel An. Rien à dire. Et puis, en fait, donc la relation s'installe, tout ça. Et puis, quelques semaines après, donc ça devait être mi-janvier, je pense, oui, il m'annonce, en fait, qu'il, dans une conversation totalement fortuite, qu'il doit partir, parce qu'à la base, il est allemand, qu'il pense partir pour son travail, pour un nouveau travail. À la fin de l'année, au mois d'octobre, il doit repartir en Allemagne, donc près de la frontière entre la Belgique et l'Allemagne, près d'Aix-la-Chapelle. Donc sur le coup, je suis un peu surpris, parce que la distance, il y a quand même plus de 100 km qui nous séparent. Donc là, avec l'Allemagne, ça ferait 300. Donc au départ, j'y crois pas trop. Je dis, en fait, c'est une blague, c'est pas, tu rigoles, tu plaisantes, ça tombe pas comme ça maintenant, on ne change pas de travail comme ça, etc.
Oui, c'est peut-être un projet qui était dans les tuyaux depuis longtemps, non?
Oui, oui. En fait, il m'a avoué qu'il le savait depuis quelque temps, et en fait, il ne pensait pas avoir la rencontre, que ça se passerait aussi bien, et voilà. Donc, je dis, écoute, ce n'est pas un souci. De toute façon, on verra. D'ici là, il y a 10 mois qui vont se passer, peut-être que dans quelques temps, on ne se parlera même plus. Enfin, bref. Lundi, donc pour le remercier de son cadeau de Nouvel An sur Paris, sur les Champs-Élysées. Moi, je l'invite en week-end, le week-end dernier. Ça se passe très bien. Et en fait, au retour du week-end, il m'annonce en fait que l'Allemagne, c'est plus prévu pour octobre, mais qu'il part définitivement de Belgique le 20 avril. Donc là, je me dis, d'accord, ok. Il rentre son appartement, tout ça, etc. Une nouvelle fois, il me dit, ne t'inquiète pas, c'est pas le bout du monde, on fera ça ensemble.
Mais est-ce qu'il justifie ce changement de date comme ça?
En fait, il me dit que l'employeur, finalement, l'a appelé plus tôt que prévu, qu'il ne supporte plus sa vie à Gand, parce qu'en fait, c'est la ville où il était avec son ex-ami. Et voilà. Et en fait, il est loin de sa famille, loin de ses amis. De base, donc il a le besoin de bouger, voilà. Ouais. C'est pour son bien-être. Donc je dis, façon, d'accord, très bien, façon, moi, aujourd'hui, dans ta vie, je suis quasiment rien. Enfin, je viens d'arriver, donc je ne suis pas à même de pouvoir dire quoi que ce soit. Enfin, je respecte, ok, on fera avec. Donc, j'ai des nouvelles tous les jours, matin et soir, voilà. Enfin, on arrive à se comprendre en anglais, on parle qu'en anglais. Donc très bien, tout se passe très bien. Et puis hier, en fait, je le vois. On passe une bonne soirée. Hier matin, un peu plus distant. Donc, je lui demande ce qui se passe. Je le sens pas très bien. Il dit non, tout va bien. C'est juste que je suis un peu triste parce que j'ai fait une soirée avec mes futurs ex-collègues.
Mais pourtant, on sent quand c'est pas tout à fait normal.
En fait, oui. J'ai senti qu'il y avait un poids, il y avait quelque chose. Je sais pas, un pressentiment, j'étais mal, même quand je suis rentré chez moi, j'étais pas bien du tout, j'ai pas envoyé de message pour dire, j'en ai pas parlé avec lui, si j'en ai parlé, il m'a dit que c'était par rapport aux collègues, certes.
Vous aviez la petite boule au ventre, quoi.
Ouais, ouais. Et puis, si vous voulez, en fait, à chaque fois qu'on se quitte, à chaque fois, on dit, on se voit tel jour, telle date, bref. Et puis, là, rien. Donc, moi, je lui pose la question, je lui dis, on se voit quand? Prochainement, il me dit, mardi ou mercredi, comme tu veux, il n'y a pas de souci. Mais bon, pas de confirmation, pas de date claire. Et puis, ce matin, hier, je suis sorti avec un ami. Ce matin, donc, il essaie de me contacter comme tous les matins. Bon, je ne réponds pas.
Stop, donc, Guillaume, on va faire durer le suspense.
D'accord.
On va s'arrêter là. Je vous récupère juste après la pause qu'on fait pour les infos. Comme ça, on en saura plus après.
Très bien.
D'accord.
Pas de soucis, Sabine. À tout de suite. Merci bien. Merci.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
On est ensemble, mais il nous reste encore une heure à passer ensemble et en direct. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler si vous souhaitez prendre la parole. Un seul numéro de téléphone à mémoriser et à composer, c'est le 3921. Amandine et Hassan sont toujours là pour vous accueillir en toute bienveillance et pour vous accompagner jusqu'à moi. Si vous souhaitez participer à l'émission par SMS, vous le savez, c'est facile. Vous faites le 739-21 en commençant bien par le mot « nuit ». Des SMS pour soutenir ou encourager quelqu'un que vous entendez, qui vous touche, apporter une suggestion qui pourrait l'aider ou simplement... demandez une mise en relation, si vous souhaitez entrer en contact simplement avec la personne que vous entendez. 739-21 en commençant par le mot nuit.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Guillaume, vous êtes toujours là ?
Toujours là, oui, tout
alors,
à fait.
On est, on est suspendu à vos paroles. Vous étiez en train de nous dire que donc, ce matin, vous avez senti.
Oui,
ça commençait à sentir le roussi, on va dire.
Oui, voilà.
Il y a un truc que vous ne sentiez pas.
Tout à fait. Donc, en fait, ce matin, moi, je me suis réveillé un petit peu tard. Donc, je vois qu'il a essayé de me contacter plusieurs fois, etc. Comme je ne répondais pas, bon, bah, il a insisté. Donc, bref, je réponds. Bonjour, tout va bien. Oui, et toi, etc. Parfait, très bien. Donc, j'ai oublié de vous dire, oui, que plusieurs fois, donc, il me disait, oui... dans la semaine, je sens que t'es pas content par rapport au fait que je t'ai annoncé que je partais, etc. Que je sois pas content, c'est pas que je suis pas content. En fait, comme je lui ai dit, c'est que c'est, pour moi, c'est pas la situation idéale. Après, content ou pas, c'est pas la question. Enfin, ça serait beaucoup plus simple si il y avait pas ce déménagement, etc.
Quand on veut construire quelque chose, on veut mettre ensemble, quoi.
Voilà. Puis j'aurais préféré qu'il me dise aussi, plus rapidement, même si bon pour lui. Voilà, bref. Et donc en fait, si vous voulez aussi par rapport à la suite, c'est qu'il faut savoir que j'ai été en couple pendant 8 ans avec quelqu'un. Cette relation s'est arrêtée il y a 2 ans, notamment par rapport à une tromperie qui a été un peu dévastatrice pour moi. Qui, suite à cet homme, m'a fait totalement perdre confiance en moi. Donc j'ai
fragile de ce
pas
côté-là,
confiance
quoi.
En moi. Ouais. Voilà, j'ai du mal à faire confiance. Et donc, en fait, chose que j'ai faite cet après-midi, c'est que je suis retourné sur le site sur lequel on s'est rencontrés.
Aïe.
Et grâce aux nouvelles technologies, on peut géolocaliser une personne. Enfin, en tout cas, voilà, enfin, chercher une personne par rapport à l'endroit où elle est. Mmh. Donc, je me suis géolocalisé sur son adresse. Et bizarrement, j'ai... trouver quelqu'un qui n'avait pas de photo, mais qui avait 28 ans, qui faisait sa taille, qui habitait dans sa rue, et où c'était marqué, en gros, qui recherchait des amis, des relations amoureuses, hashtag Belgique, hashtag Allemagne.
Ah oui, ça fait beaucoup de similitudes.
Voilà, donc j'ai envoyé un message à cette personne.
Sous quel nom ? Enfin, le vôtre ou un autre ?
Non, un profil neutre, pas mon nom, rien du tout, pas de photo, rien. Lui, en même temps, j'essayais de lui parler, donc il ne me répondait pas. 10 minutes après, en fait, il me répond sur mon téléphone classique, en disant qu'il est en train de dormir, qu'il vient de se réveiller, qu'il boit un café. Et la personne donc, sur le site me répond, et je lui demande de m'envoyer une photo. Et c'était lui. Donc là, ça a été... La douche froide. Donc là, je lui dis, il me dit, est-ce que tu vas bien ? Je lui dis, non, pas du tout. Il me dit, pourquoi ça ? Je lui dis, écoute, je ne comprends pas. Appelle-moi tout de suite via Skype. Donc, il m'appelle.
Sans savoir que c'était vous.
Sans savoir que c'était moi. Mmh. Donc, je lui dis, voilà. Donc, il me dit, qu'est-ce qui se passe, tout ça, pourquoi ça va pas. Je dis, bah écoute, tu sais très bien depuis qu'on s'est rencontrés que pour moi le respect et la confiance via mon historique, c'est très important. Et là, je comprends pas ce que tu fais sur le site de rencontre et je comprends pas ce qui se passe. Donc j'avais déjà un pressentiment hier. Oui. Là, maintenant, je te vois là. Enfin, pourquoi ? Et pourquoi tu me l'as pas dit ? Et à quoi ça rime ? À quoi ça rime tout ça ? Enfin, donc il me dit qu'en fait, que j'aurais dû déjà lui en parler hier. Chose que j'ai faite. Hier, je lui ai dit que je le trouvais un peu distant,
Le problème, c'est pas de vous mettre ça sur le dos. Hein.
C'est ça. En plus, que je lui ai dit, je fais attends. Enfin, faut partir de la situation. Enfin. Alors, il me dit que lui, c'est pour... comme il est seul là-bas, c'est pour se faire des relations amicales. Alors, chose que je peux peut-être comprendre...
Sauf que c'est pas ce qu'il a écrit sur son profil.
Voilà, en fait, on sélectionne des cases où on met amis, relations amoureuses, enfin, j'en sais rien, enfin bref, je sais même plus. En tout cas, il a noté relations amoureuses. Bon, bref, c'est ça qui me fait le plus mal.
Ben, évidemment.
Et donc, en fait, il me dit oui, mais en fait, il me faut du temps... Il me faut du temps parce que ben il y a déjà la langue, parce que ben l'anglais c'est bien, mais là-bas c'est pas notre langue natale. Enfin moi c'est le français, lui c'est l'allemand, donc on se débrouille, mais ben c'est pas toujours évident. Il y a la distance et lui en fait il est persuadé que depuis que je lui annonce, qu'il m'a annoncé ça, qu'en fait que je suis pas heureux, que je vais pas être bien. Alors lui, il n'est pas dans l'optique de me quitter. Il me l'a encore dit ce soir. Pour lui, le problème, c'est que je vais pas être bien. Que il a le sentiment que j'ai besoin de quelqu'un au quotidien, chose qui est totalement faux, parce que de toute façon, je suis pas demandeur, parce que c'est lui qui justement.
Excusez-moi, Guillaume, mais vous n'avez pas l'impression qu'il se justifie un peu beaucoup là?
Bah, je sais pas. C'est pour ça que je vous appelle, parce que franchement, je sais pas, je le sens sincère, parce que je vois pas pourquoi faire tout ça. Parce que je veux dire, le week-end à Paris, il m'a fait plein d'attention, il fait aussi la route comme moi, enfin.
Qu'il est bien avec vous, ça, j'en doute pas, mais je pense que c'est juste quelqu'un qui est pas fidèle, quoi. Ou quelqu'un qui assure ses arrières, comme ça, si vous le quittez, il aura déjà quelqu'un en réserve.
Ben oui, mais ça, je...
Malheureusement, oui.
Donc ça, j'ai du mal avec ça. Donc je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois... Parce que je m'étais dit, attends jusqu'à fin avril. Prends les bons moments, prends ce qu'il y a à prendre. Protège-toi.
Si ça vous fait pas mal, tout dépend de ce qu'il y a dans votre cœur. Hein. Est-ce que c'est OK pour vous de vous dire, c'est comme ça, je sais ce qu'il est, je sais ce qu'il ne sera pas. Je prends ce qu'il y a à prendre et ça s'arrêtera quand ça doit s'arrêter. Est-ce que ça, c'est OK pour vous ou pas du tout? Ça vous fait du mal?
Ce qui me fait du... j'ai pas envie d'arrêter. Franchement, j'ai pas envie d'arrêter. Pas que ça me fait du mal, c'est que, au fond de moi, je suis persuadé que c'est pas quelqu'un de volage. Parce que, je veux dire, si ce serait le cas, pourquoi continuer? Pourquoi continuer à avoir quelqu'un qui habite à plus de 100 km de chez soi? À quoi ça sert de m'appeler matin, midi et soir?
Alors attention, ça, c'est pas la même définition des gens qui sont volages. Il peut être très bien avec vous, mais ça ne lui suffit pas.
D'accord.
Sinon, il n'aurait pas mis ce profil-là. Maintenant, il y a plusieurs choses que vous avez mentionnées qui sont importantes. Effectivement, la langue, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'on imagine de construire un couple quand chacun a une langue différente. Quand il y en a un des deux qui ne parle pas la langue, c'est compliqué. Notamment, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, le plus difficile, c'est de s'engueuler quand ce n'est pas sa langue.
On s'est jamais dit. On s'est disputé cet après-midi. C'était la première fois. Et c'est vrai que c'était très compliqué.
C'est très difficile. Parce que quand tout va bien, déjà, c'est pas simple de trouver les mots. Mais quand on s'énerve et qu'on doit trouver des mots qui sont pas dans sa langue, c'est excessivement compliqué. Il y a donc la barrière de la langue. Il y a la distance géographique qui s'installe de plus en plus. Et puis un autre phénomène aussi. Moi, je discute beaucoup avec des gens qui sont sur des sites de rencontres. Beaucoup de gens deviennent accros à ça. Et souvent, je leur pose la question, je leur dis, mais pourquoi vous ne restez pas avec la personne que vous avez rencontrée si ça va? Parce qu'on ne sait pas, peut-être que derrière, il y a quelqu'un avec qui ça sera encore mieux. C'est un côté un peu addictif. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à quitter ces sites-là.
Alors, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Sauf que, en fait, ce qui m'a, entre guillemets, impressionné, le terme est fort, par rapport aux autres relations que j'ai pu avoir entre-temps, c'est qu'en fait, dès qu'on s'est rencontrés, En fait, dès qu'on a bien parlé, en fait, il s'est enlevé tout de suite. Parce que moi, c'est peut-être pas bien, mais par rapport à mon historique, je suis de plus en plus méfiant, j'ai pas confiance, donc j'allais voir régulièrement. Honnêtement, j'allais voir s'il était connecté. Mmh. Et il n'y était pas. J'y allais honnêtement tous les deux jours. Honnêtement, j'allais voir tous les deux jours parce que je me disais, comment se fait-il qu'un gars comme lui, parce que physiquement il est bien, il est intéressant, il est. Voilà, enfin. Qui habite à plus de 100 km de chez moi, comment se fait-il déjà qu'il m'a trouvé? Parce que, enfin, voilà, enfin. Et donc, j'avais un doute. Et pour même vous dire, enfin, honnêtement, c'est peut-être stupide, hein. Mais je pensais que c'était un faux profil ou un escort boy ou j'en sais rien. Enfin bref,
il y a un gros manque d'estime de vous-même là. Il y a un, côté je mérite pas, il est mieux que moi, c'est ça?
Ah ouais, un truc. Ouais. Au début, c'était ça. Clairement, c'était ça. Donc j'allais voir en fait tous les deux jours. Il n'était pas connecté et il s'est enlevé de lui-même.
Mais donc, comment pouvez-vous être sûr qu'il n'avait pas un autre profil à ce moment-là?
Bah c'est ce qu'un de mes amis me dit en fait.
Bah oui. La preuve, c'est qu'il y est encore.
Ouais, mais alors, ce qui en plus, il y a ça, mais après, je me dis, s'il fait ça, c'est que là, en fait, on a arrêté de se protéger d'un commun accord en disant, voilà, moi, je suis quelqu'un de sérieux, je fais des tests tous les 3-4 mois, etc. Donc, lui, il m'a dit pareil. Au début, il m'a dit oui, mais par contre, moi, avant d'arrêter de se protéger, je veux voir tes proches, etc. Donc, voilà, on a même prévu de. Voilà, c'est prévu qu'il voit mes proches là, prochainement, etc. Donc, on a arrêté de se protéger. Et là-dessus, il est très à cheval. Donc,
Oui, c'est pas très cohérent comme discours.
Vous voyez, c'est pas cohérent. Et j'arrive pas à m'imaginer, honnêtement, je me dis, alors, soit. Parce qu'il aurait très bien pu me dire. Tu m'as chopé sur le site, j'accepte pas que tu me pistes, c'est pas bien, etc. On arrête là, je suis vexé, etc. Non, là, il l'a pris vraiment d'une façon très zen, où il m'a dit, voilà, je comprends ton passé, sache que j'ai fait ça parce que, maintenant, par contre, il m'a dit, j'ai peur que tu sois pas heureux parce qu'il te faut quelqu'un au quotidien, parce que
Mais donc quoi? Parce qu'il a peur que vous soyez pas heureux, il prépare ses arrières?
C'est ça que moi j'ai du mal avec ça.
Non, je pense qu'honnêtement, je pense qu'il tient à vous et qu'il passe de bons moments avec vous, il a peut-être même des sentiments, mais que c'est quelqu'un de volage et c'est quelqu'un en tout cas qui est accro à ces sites-là. C'est une évidence.
Alors, pour moi, qu'est-ce que je fais pour me protéger? Est-ce que je dois. À contre-cœur, parce que j'ai pas envie d'arrêter, j'ai pas du tout envie de stopper la relation. Moi, je suis prêt à, même après, par rapport à l'Allemagne, on en a discuté, on trouvera une solution, on verra, de toute façon, mais j'ai pas envie, pour l'instant, que ça vienne de moi. J'ai pas envie, moi, de stopper cette relation, mais j'ai pas non plus envie de souffrir.
La réponse est dans la question, Guillaume. Vous n'avez pas envie que ça s'arrête? Par contre, moi, si j'étais vous, je jouerais carte sur table. Je dirais, écoute, tu sais que j'ai une fragilité de ce côté-là et que j'ai besoin de savoir que je peux avoir confiance. J'ai moyennement confiance vu ce que j'ai vu. Je serais absolument intransigeant sur la protection physique, la santé. Ça, c'est non négociable. Parce qu'il y a la tromperie, il y a ce que ça fait moralement, mais il y a les dégâts physiques derrière. Donc là, on plaisante pas avec ça. Et je lui dirais, écoute, allons jusqu'au bout du truc. Moi, juste ce que vous venez de me dire, en fait. Moi, j'ai envie que ça continue jusqu'au bout. Je ferai tout ce qu'il faut pour. Mais sache que je suis un peu échaudée par ce qui vient de se passer. Et on verra bien.
Carrément.
J'entends bien que vous n'êtes pas prêt du tout à stopper net, là, l'histoire. Vous n'avez pas envie de ça.
Ah non. Enfin, moi, non. Non. Donc, on a recommuniqué, là, juste à... il y a quelques heures maintenant... Je lui ai redit, que ça m'avait un peu perturbé, pas un peu, mais perturbé, que j'avais un passif, etc. Et lui, en fait, il tourne en boucle sur le fait que, que lui, il lui faut plus de temps que moi par rapport aux sentiments, que quand il me parle de l'Allemagne, je suis pas heureux.
Mais c'est vrai aussi, c'est vrai aussi tout ça, mais quelle que soit la réalité de ce qu'il dit et des faits, mettez un petit warning quand même, mettez une petite alerte rouge à l'intérieur.
Mais c'est pas, c'est pas forcément, enfin, je vous coupe, excusez-moi, mais c'est pas forcément vrai par rapport à l'Allemagne. En fait, c'est pas que je suis pas heureux. C'est sûr que voilà, c'est pas comme je l'ai dit. J'ai simplement dit, voilà, c'est pas la situation idéale pour moi.
Ah oui, ça met du flou sur votre avenir, quoi.
Bah voilà, mais après, voilà, c'est la vie, c'est son boulot, sa famille, ses amis, etc. Enfin, ça, je peux tout à fait comprendre. Après, je lui ai dit, tu peux pas penser pour moi. Tu peux pas être dans ma tête et dire, oui, t'es pas heureux, etc. Il te faut quelqu'un au quotidien. Non, je lui ai dit, moi, je veux pas vivre avec quelqu'un. J'ai vécu avec quelqu'un pendant 8 ans, qui s'était basé sur le mensonge, j'étais pas heureux, il m'a fallu un temps d'adaptation, j'ai dû faire une thérapie, etc. Donc, je veux pas vivre avec quelqu'un. Je veux, pour le moment, avoir une histoire, enfin rencontrer quelqu'un, passer du temps avec, passer des week-ends, passer des soirées, avoir des hobbies en commun, discuter, pas de problème. Mais la vie au quotidien, je sais que je n'y suis pas prêt. Et ça, il le sait très bien. Mais tout le temps, il remet ça sur le tableau. Tout le temps. Et alors, est-ce que c'est pour me faire fuir? Est-ce que c'est pour dire, bah voilà, mais dans ce cas-là, bah, qu'il le dise carrément. Qu'il me dise carrément, voilà.
Oui, peut-être qu'il veut le beurre et l'argent du beurre.
Et après, il me dit, on va le faire ensemble, on va y arriver.
Alors, attendez, Guillaume, si on retournait la situation, est-ce que vous, là, vous aimeriez, est-ce que vous auriez envie d'ouvrir de nouveaux profils sur des sites de rencontres?
Non.
Et d'ouvrir la porte pour avoir des nouvelles rencontres?
Non.
Alors, vous voyez bien, c'est bizarre.
Non, moi, j'ai mes amis. Moi, j'ai mes amis ici, j'ai mes amis en France.
Je parle pas d'amitié, là, je parle de rencontres. Hein.
Non, moi j'ai pas besoin de rencontre, mais lui il me dit que ce site-là que c'était juste par rapport à des amis. J'ai quand même des gros doutes quand même.
Il a coché rencontre amoureuse, non?
Oui.
Bon, il a pas ripé, oui, c'est pas arrivé par hasard non plus ça. Voilà.
Donc je me dis je passe peut-être pour le gros imbécile.
Non, vous êtes juste sincère et vous écoutez vos émotions. Il y a aucune honte à ça, bien au contraire. Simplement, faites attention à vous, quoi.
Excusez-moi. Non, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, c'est lui qui vient toujours à la charge. C'est ça, en fait, je me dis, honnêtement, c'est lui qui... Comment ? Et je le fais exprès. En fait, pour pas montrer, parce que je suis quand même un peu attaché, c'est vrai, mais c'est pas moi qui lui envoie des messages chaque matin, c'est pas moi qui donne des nouvelles, c'est lui. Et encore ce matin, je vous dis, il était limite paniqué, etc. Et 3 heures après, je le retrouve sur le site. Enfin, je me dis, mais à quoi ça sert? Enfin, je suis quoi, moi, dans tout ça, en fait?
Mais c'est lui qui a un problème de ce côté-là. Peut-être.
Je ne sais pas.
Peut-être qu'il a... Je pense qu'il a quand même forcément des sentiments. En tout cas, il passe de bons moments avec vous, ça, c'est clair. Il y a un lien, il y a quelque chose qui est en train de se créer, mais il y a une attitude pas claire du tout de son côté à lui, quoi.
Non. Non.
Donc une fois de plus, vous avez envie de continuer avec lui, il faut garder ça en toile de fond. Et pas vous jeter corps et âme dans une histoire qui, pour l'instant, n'est pas forcément très très sincère de ce côté-là, quoi. En tout cas, pas très honnête.
Ouais, Surtout
après ce que vous avez vécu, ça serait dommage de recommencer, quoi.
C'est ça.
Alors soit vous allez en toute connaissance de cause en vous disant, j'ai un doute, je vis ce que j'ai à vivre avec lui, on verra jusqu'où ça nous mène, mais... Je plonge pas la tête la première. Soit vous vous dites, je suis assez courageux pour arrêter et peut-être que je mérite quelqu'un de mieux. Peut-être que je mérite quelqu'un qui soit vraiment disponible pour moi et qui n'ait pas besoin d'aller chercher ailleurs en même temps, quoi.
Oui. Ça, honnêtement, à l'heure actuelle, j'aurais du mal.
Oui,
parce qu'en fait, honnêtement, la rencontre, même les attentions, jamais quelqu'un a agi comme il agit. Enfin, au niveau du week-end, il m'a écrit des lettres, il s'intéresse beaucoup à mon entourage, il écrit sur des feuilles qui est qui, les liens de parenté, tout ça. Il veut voir mon entourage.
Il y a de jolies choses aussi.
Ça me perturbe.
Mais vous savez, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc dans la vie. Il y a de jolies choses aussi, mais il y a un mais. Donc vivez votre histoire, mais vivez-la avec un petit recul de protection. Allez pas vous jeter dans le grand bain à la tête la première sans savoir s'il y a assez de profondeur.
Et d'après vous, je dois faire quoi? Donc là, si cette semaine, il veut me voir...
Si vous en avez envie, c'est ce que je vous dis. Vivez votre histoire. Prenez les bons moments, vivez ce que vous avez à vivre ensemble. Il y a deux options. Hein. Soit c'est quelqu'un qui a un problème et qui n'est pas très honnête de ce côté-là, et il y aura d'autres alertes. Mmh. Et là, je pense que ce sera pour vous plus facile de prendre du recul. Soit c'est quelqu'un qui a juste eu un moment de faiblesse ou un moment de doute, et ça se passera mieux entre vous. Avec la distance et la langue, c'est pas évident du tout, mais pourquoi pas, j'en sais rien.
Et par rapport justement à cette distance, est-ce que, enfin, dans les auditeurs que vous avez eus au quotidien, etc., est-ce que construire quelque chose comme ça à plus de 300 km, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup comment?
C'est compliqué, Guillaume, de répondre à ça. Ça vaut le coup quand on est sûr de notre histoire. Là, vous vous prenez quand même beaucoup la tête, dès le début. Quand ça commence de manière chaotique, quand on rajoute la distance derrière, c'est pas fait pour arranger les choses.
D'accord.
Ça peut tenir. Il y a des histoires à distance qui tiennent, mais il faut qu'elles soient très solides. Pour l'instant, c'est pas très solide.
Non, pas vraiment.
S'il s'amuse, amusez-vous aussi. Mais gardez toujours à l'esprit que peut-être c'est pas le bon. Et que peut-être il y aura quelqu'un d'autre sur votre chemin qui vous méritera, vous.
Oui.
Pour du plus long terme.
Oui, ouais, certainement. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup... Enfin, aujourd'hui, j'arrive pas à me dire... j'arrive pas à voir quelqu'un... À voir, en fait, quelqu'un d'autre...
Vous n'en avez
autre
pas envie.
Que lui, pour l'instant. Non, ce n'est pas envie du tout.
Allez, vous savez, j'aime bien cette phrase qui dit « Tout est bien qui finit bien, et si c'est pas bien, c'est que c'était pas fini. » Allez au bout de cette histoire-là, vous verrez bien si elle s'arrête dans 2 jours ou dans 2 ans, ou jamais. Mais gardez quand même toujours en toile de fond que c'est pas tout à fait clair pour l'instant.
Est-ce que je dois lui en reparler de ce qui s'est passé aujourd'hui, ou est-ce que je dois faire un blackout que je dois arrêter?
J'ai bien l'impression que si vous continuez à en parler, il va vous répondre les mêmes trucs et vous allez tourner en rond.
Oui.
J'ai un peu l'impression qu'il va vous ressortir la même salade. Si vous avez envie que ça continue un petit peu, profitez des bons moments, lui posez pas trop de questions. Et voyez comment ça se passe, mais faites attention à vous quand même, quoi.
Ok, très bien.
Prenez ce qu'il y a de bon à prendre, avec toujours ce petit recul nécessaire pour faire attention à ce qui se passe.
Mais j'ai le sentiment d'être un peu aveuglé, en fait, si vous voulez. J'ai le sentiment d'être...
Mais on est tous comme ça quand on vient de rencontrer quelqu'un aussi. C'est un peu humain, c'est normal. Vous avez commencé à faire des projets aussi, à vous projeter avec lui.
Des projets, oui, enfin...
À moyen terme. Commencez à me dire, s'il part en Allemagne, ça ne me gêne pas, je pourrais continuer à le voir, ça s'appelle des projets, ça.
Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on a même planifié des week-ends, tout ça, etc. Oui, ça, c'est vrai.
Ce qui est souvent difficile quand on veut quitter quelqu'un, c'est qu'il faut quitter la personne, il faut faire le deuil de la personne qu'on veut quitter, il faut aussi faire le deuil des projets qu'on avait ensemble. Il faut se dire que ces projets-là, vous pourrez aussi les faire avec un autre, un jour.
Oui, oui.
Allez au bout du truc, pour l'instant vous n'êtes pas prêt à en sortir, donc allez au bout. Faites un tour de manège encore et vous verrez jusqu'à où ça vous mène.
Oui, je pense que vous avez raison. De toute façon, comme vous dites, si j'ai le moindre doute ou que je retrouve quelque chose ou...
L'avantage c'est que vous savez maintenant. Vous n'êtes pas le Danon de la farce, vous savez exactement. Donc c'est vous qui avez les rênes. Hein. Vous y allez, vous y allez pas, mais si vous y allez, vous y allez en connaissance de cause.
Mais à contrario, vous voyez, dès qu'on a terminé la conversation Skype, qui était un peu mouvementée, il s'est déconnecté, il s'est désinscrit, le profil a disparu, plus rien, quoi.
Oui, mais il n'est pas idiot non plus.
Plus rien. Bon, il ne s'est pas excusé, hein, il ne m'a pas dit... il ne s'est pas excusé, il ne m'a pas dit... j'ai vu quand même qu'il les ait... Parce que, après, je ne pense pas être non plus... je veux dire envoûté, mais parce que j'étais quand même assez énervé et assez ému, et il était quand même, je l'ai vu, il était quand même touché hein, par rapport au fait que j'étais pas bien, par rapport au fait que ça m'a blessé, carrément, hein, parce que
il n'est pas complètement insensible. Écoutez, vivez votre histoire jusqu'au bout, Guillaume, une fois de plus, en toute connaissance de cause, en ayant les yeux et les oreilles ouverts. C'est vous qui avez les rênes maintenant, vous savez, c'est vous qui choisissez. Mais si ça se reproduit, vous aurez été prévenu, vous saurez. Et là, ça serait bien d'arrêter rapidement.
Très bien, oui.
Préservez-vous dans tous les sens du terme.
Pas de deuxième chance.
Exactement.
Très bien.
D'accord.
Très bien, très bien. Merci Sabine, merci beaucoup.
Je vous embrasse, Guillaume.
Bonne soirée à vous, merci.
Merci, au revoir. Et c'est Marie que j'accueille maintenant sur cette libre antenne. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Oh, quelle voix énergique.
Je suis une mamie de 76 ans.
Oui.
Voilà. J'ai un petit un problème. Il y a quelque chose qui me tracasse.
Racontez-moi.
Je pense qu'on vous en a parlé un peu, non?
J'ai oui, un tout petit peu. Amandine m'a dit que vous aviez une petite fille qui écrivait des poèmes. Et vous avez...
Voilà.
Allez, racontez-moi ça plus en détail.
Voilà. J'ai une petite fille qui a écrit un poème par rapport à l'école. On leur avait demandé d'écrire un poème parce que la Vierge de Lyon, de la basilique de Fourvière, on aurait volé sa couronne.
Mm-hmm.
Je ne savais pas, mais enfin voilà. Donc, ma petite fille a écrit un poème.
Quel âge est là, votre petite fille?
11 ans.
D'accord.
Est-ce que vous voulez que je vous le lise? Il n'est pas long, hein?
Allez-y.
Alors, je vais mettre mes lunettes, parce que si je n'ai pas mes lunettes, je ne verrai rien.
Oui,
alors, chère Marie, là où tes ailes de bien t'ont porté vers Fourrières, tu es allée... Tu es allé, mille poèmes furent donnés. Quand la lumière fut ternie, les initiatives prirent vie. Pardon, je ne sais pas trop bien lire. Hein. Chère Marie, tu es bénie, tu es celle qui insuffle la flamme. Notre foi en toi étincelle. Et auréole de merveille.
Oui.
Voilà. Ok.
Oui, vous avez très entendu? Bien. Oui, à peu près, oui.
Voilà. Donc,
quel est le souci
quand
avec ça?
Des personnes ont lu ça, il y a certaines personnes qui ont dit, pour une athée, voilà. Bon, alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'à 11 ans, est-ce qu'on peut se dire je suis athée ou pas?
Comment ça, pour une athée, ça veut dire quoi? Pourquoi? Qui dit qu'elle est athée?
Parce que, c'est des personnes qui savent comment les parents, tout ça, quoi, voilà. Soi-disant, cette petite fille serait athée.
Voilà. Est-ce que ses parents, est-ce que vous êtes croyante?
Moi, oui.
Pratiquante?
Mais moi, je suis la mamie, hein.
Oui, mais est-ce que vous êtes la maman de la maman ou la maman du papa?
Papa.
Voilà. Est-ce que votre fils a une éducation religieuse?
Il en a eu une, mais bon, je ne sais pas si pratique, hein, voilà.
Et votre belle-fille?
Là, je ne sais pas.
Vous savez pas
je
ça
crois.
Vous n'en parlez pas avec eux?
Je crois pas. Enfin, si, elle a quand même une petite... Enfin, j'en sais rien, là, pas vraiment. Mais elle est dans une école religieuse, hein, cette petite fille.
Bah, c'est clair.
Enfin, une école privée, pardon.
Oui.
Ouais, religieuse quand même.
Ah oui, bien sûr.
Voilà.
Quand on demande aux enfants d'écrire un poème sur ce thème-là, c'est forcément qu'il y a une éducation religieuse derrière.
Oui, mais bon... mais pourquoi cette chose-là a été écrite?
Quelle chose?
Bah, que pour une petite fille athée, c'est bien écrit quand même. Voilà.
Bon. J'ai pas bien compris, Marie. Qui a écrit ça? Un professeur?
Non, pas du tout. Hein. Non, c'est de la famille.
Mais qui a besoin d'écrire sur le poème d'une petite fille? J'arrive pas à comprendre le contexte.
Parce que ce poème a été donné à la famille, quoi. Alors, écrit pour dire que ma petite fille... a été choisi pour que ce poème soit mis au pied de la Vierge, voilà.
Et qui a réagi alors? Il y a quelqu'un en particulier là dont vous parlez?
Il y a ma fille, une de mes filles plutôt. Je sais qu'elle est un peu comme ça. Et puis il y a la maman qui a mis pour une petite fille athée, c'est bien écrit.
Alors quel est le véritable problème pour vous, Marie? Ça serait vraiment que votre petite fille soit athée ou ça serait qu'on dise ça d'elle?
Pardon?
Le problème pour vous, c'est quoi? C'est qu'on dise d'elle qu'elle est athée ou qu'elle le soit vraiment? Qu'est-ce qui vous ennuie le plus?
Je ne sais pas si elle y est, mais ça sera un petit peu qu'elle y soit vraiment. Mais enfin, je me pose la question, à 11 ans, est-ce qu'on peut déjà se dire qu'on est athée? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce qu'à par rapport à la psychologie, hein, je parle, ou la façon dont les enfants réagissent, est-ce que une petite fille de 11 ans peut avoir un sentiment en se disant « je suis athée » ?
Ce n'est pas une question de psychologie, c'est une question d'éducation. Les enfants, la plupart du temps, la religion vient de l'éducation des parents, de ce qu'on leur dit.
Oui.
C'est un peu jeune pour se faire une propre croyance.
Voilà, c'est ce que je veux dire.
Elle n'a ni l'expérience ni la maturité nécessaire pour croire. Elle peut croire à des choses peut-être à 11 ans, mais elle ne peut pas en être certaine.
Voilà, c'est pour ça que j'ai été un peu, un peu choquée, moi. Je sais pas pourquoi.
Pourquoi vous n'en parlez pas directement avec elle?
En fait, pardon?
Pourquoi vous n'en parlez pas directement avec elle, avec votre petite fille? Lui demander en quoi elle croit, si elle croit.
Ben écoutez, une fois, ma petite fille, elle m'appelle, me dit, mamie, je sais que tu es croyante. Est-ce que tu peux m'aider à répondre sur parce que bon, elle faisait du catéchisme jusqu'à 9 ans, je crois.
Mm-hmm.
Parce qu'elle avait envie de faire du catéchisme. C'était pas une obligation. Elle a dit à sa mère qu'elle voulait faire du catéchisme. Elle a fait du catéchisme, puis après elle a arrêté. Et une fois, elle me dit, mamie, toi qui es croyante, enfin, voyant, elle me dit, est-ce que tu peux m'aider à répondre aux questions?
Oui.
Parce qu'elle avait des questions, un questionnaire.
Oui,
et je lui ai répondu, tout ça, puis elle m'a dit, oh, ben, c'est gentil, mamie, c'est sympa, voilà. Donc, et c'est pour ça que je me pose la question. Je me dis, mais comment on peut dire qu'une gamine, une enfant de 11 ans est athée? Moi, ça me dépasse. Je ne sais pas pourquoi ça me dépasse.
Mais vous n'en avez pas profité à ce moment-là pour parler avec elle de ça, des croyances, de la religion?
Le jour où elle m'avait demandé,
oui,
là?
Oui.
Ben non, pas trop, parce que comme elle faisait du catéchisme pour moi, je me suis dit, bon, elle doit avoir quand même une certaine... voilà.
Ben elle a reçu une éducation, maintenant, est-ce qu'elle, elle y adhère ou pas? Est-ce qu'elle peut déjà y adhérer ou avoir du recul nécessaire pour ne pas y adhérer si elle le désire? J'en sais rien. C'est pour ça que je pense que c'est avec elle qu'il faudra en parler. Est-ce que ça vous poserait...
Oui, j'ai essayé de l'appeler, mais là, je n'ai pas pu l'avoir, parce que bon, elle a un téléphone, mais ses parents lui laissent que quand... voilà. C'est assez strict. Enfin, c'est bien, hein, parce que bon, c'est des enfants, ils sont trois, hein, des enfants très polis, très corrects, je ne sais pas comment dire ça, quoi. Bon, sympa, gentil, voilà tout. Hein. Mais bon, voilà, quoi. Mais je ne sais pas si je peux aborder ça au téléphone, en fait.
Au téléphone, ça me paraît un peu délicat. Mais ça ne serait pas envisageable d'aller en parler avec votre fils d'abord? Non?
Peut-être.
J'ai quand même l'impression que vous n'osez pas, en fait.
Eh bien, c'est vrai que... c'est bien. Parce que moi, je vais vous dire un truc. J'ai 4 enfants et j'ai 11 petits-enfants, en fait. Hein.
Mm-hmm.
J'en ai eu 12, mais j'en ai 11. Et ces petits-enfants, bon, je discute avec eux, les grands, les petits, parce qu'il y en a qui ont 25 ans, et il y en a d'autres qui en ont la plus jeune à 8 ans. J'ai donc presque tous les âges. Et bon, je discute avec eux, tout ça. Mais je ne me suis jamais occupée de leur...
croyance, de religion.
Je discute avec les petits-enfants. Il n'y a pas de problème. Je les vois, tout ça. J'ai des bonnes relations. Mais je ne me suis jamais occupée de leur façon d'élever les enfants, de leur couple, de ceci et cela. Moi, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu dans ma... voilà. Mmh.
Mais là, est-ce que ça vous embêterait si vraiment cette petite fille vous disait ben moi, je ne crois pas en Dieu?
Moi, personnellement, ça moi, je ne crois pas que qu'on puisse être athée, déjà. Pour moi, athée, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais enfin, bon.
Ah ben, chacun a le droit d'avoir ses croyances, Marie.
Non, mais ce n'est pas une question de croyance. Je dis pas qu'il a le droit ou pas droit d'avoir une croyance. Je suis d'accord avec vous. Mais le mot athée, ça me perturbe, ça m'agresse. Je sais pas pourquoi.
Parce que vous ne l'êtes pas, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme vous.
Oui, après ça, je suis bien d'accord avec vous.
Il faut tout pour faire un monde.
Voilà, donc, hein?
Il faut de tout pour faire un monde, je vous dis.
Ah oui, oui, non, mais je ne critique pas ceux qui sont athées ou qui ne sont pas athées. Mais pour moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas croire à quelque chose. Voilà, c'est ça, en fait.
Bon, là on sort un peu du débat, c'est surtout qu'à 11 ans, c'est un peu jeune, en fait, pour savoir ce
voilà,
à quoi on croit ou pas.
Non, mais je suis bien d'accord avec vous, c'est pas de ça que je voulais dire.
C'est un peu radical comme terme pour une petite fille de 11 ans, quoi.
Voilà, c'est ce que j'ai pensé aussi, parce qu'une petite fille de 11 ans, elle n'a pas encore ses... Je sais pas, moi, elle n'a pas encore tout... Elle n'a pas tous les jugements.
Bah, c'est normal. Est-ce qu'elle a vécu un deuil, déjà, ou pas?
Elle a vécu un deuil, oui, parce qu'elle a une petite sœur qui est décédée. Sa sœur aînée est décédée, enfin décédée.
Ah, bah oui.
Enfin, voilà.
Donc, oui, mais ça, c'est quelque chose qui peut changer la donne. Vous savez que certains enfants se mettent à dire que Dieu n'existe pas ou à le détester parce qu'ils ont souffert d'un deuil aussi. Ça peut être une porte qui se ferme à cause d'une souffrance.
Ouais, oui.
C'est pour ça que je pense que ce serait intéressant de parler avec elle.
Ouais. Mmh. Non, mais je parlerai avec elle, mais parce que je vais souvent les voir. Hein. Je vais peut-être 8-10 jours chaque fois dans l'année, ou même des fois deux fois par an. Hein, mais bon, voilà.
Mais ce qui me paraît important, c'est de lui ouvrir des portes, pas de les fermer. De lui dire, voilà ce à quoi moi je crois. Tout le monde n'a pas les mêmes croyances, mais voilà, on peut en parler toutes les deux. C'est un joli lien aussi, ça.
Oui. Je vois, il y a une autre de mes petites filles qui est beaucoup plus âgée. Une fois, elle me dit, mamie, tu crois en Dieu? J'ai dit oui, parce que j'y crois. Et elle est restée surprise. Mm-hmm. Et puis, elle n'a plus parlé. Moi, qu'est-ce que je veux dire?
C'est dommage que ce soit souvent un sujet tabou.
Non, mais c'est pas pour parler de religion que je dis ça, mais ça m'a tellement impressionnée, choquée, ce genre de réflexion que, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Oui, d'associer athée avec une petite fille de 11 ans, c'est un peu catégorique, on va dire.
Voilà, c'est ce que je pensais aussi. Mais moi, par exemple, moi j'ai mis sur le parce que j'ai écrit un petit mot, en mettant que, de toute façon, à l'âge-là, c'était plus le fait qu'il y ait eu... été enlevé la couronne de la Vierge, que ça ne se fait pas, et que de toute façon, vous voyez ce que je veux dire, que c'était plus pour un sentiment de mal qui a été fait.
De mettre des mots, mettre des mots sur ce qui s'est passé, quoi.
Voilà, voilà.
Ouais. Donc, ouvrez dialogue avec elle, Marie, c'est important.
Ouais. Oui, oui.
N'hésitez pas à en parler avec elle.
Je suis un peu... D'accord. Mais je pense que oui. Mais bon, je le ferai, mais je ne peux pas le faire tout de suite parce que...
Non.
J'irai le faire quand je la verrai, mais j'ai un peu peur d'entamer ce dialogue.
Et pourquoi? Peur de quoi?
Je ne sais pas, ça me... Pourtant, je discute avec les petits-enfants, mais là, j'ai un peu...
Il n'y a aucune raison d'avoir peur, on peut parler de tout avec les gens qu'on aime normalement.
Ah oui, ça c'est sûr.
Alors.
Enfin, oui, comme vous dites, oui, c'est vrai. Quoique des fois, comme on les aime, on a peur de les blesser ou de les... Non ?
Mais vous n'avez pas l'intention de lui imposer quoi que ce soit, simplement de discuter avec elle. Donc il n'y a aucune raison qu'elle se fâche.
Oui. Mais je n'irai pas discuter avec sa maman. Hein. Je ne pense pas, parce qu'elle est un peu plus... Quoique des fois, j'ai discuté avec elle, mais bon...
Marie, j'ai Déborah derrière vous qui attend de me parler. Il reste très peu de temps.
Oh, excusez-moi.
Non, c'est pas grave. Écoutez votre cœur.
Oui.
Et parlez-lui à cette petite fille. Gardez ce lien précieux entre une grand-mère et sa petite fille. C'est important.
Oh, ben j'ai des liens précieux avec mes
tous.
Petits-enfants. Ouais. J'en ai 11. Alors, vous voyez, j'ai de quoi parler. Hein.
Alors, profitez-en bien, mais avec celle-ci en particulier.
D'accord.
Et sur ce sujet-là.
Oui.
Il n'y a pas de tabou.
Oui.
On peut tous dire en famille. Hein.
D'accord.
Donc on est sincère.
D'accord. Je suis un peu perturbée. Voilà.
Je vous embrasse, Marie. Merci de votre appel.
Ben écoutez, moi aussi. Hein, et bonne soirée. Vous savez, je vous écoute depuis 15 ans. Hein.
Merci.
Pas d'aujourd'hui.
Merci pour cette fidélité.
C'est vrai.
Au revoir, Marie.
Allez, bonne soirée.
Merci.
Au revoir. Merci. Je vous embrasse.
23h, 1h. La libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Bonsoir Déborah.
Bonsoir Sabine.
Je suis désolée, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais absolument faire votre connaissance. Bonsoir à vous.
Merci, vous m'entendez bien ?
Oui, très bien.
D'accord.
Alors je vous écoute, il paraît que vous avez une histoire qui est digne d'un roman.
Oui, enfin digne d'un roman, voilà. En fait, j'aurais voulu savoir si vous pouviez me donner quelques clés pour diminuer parfois mon insécurité, on va dire, intérieure.
Alors bougez pas, je sors mon trousseau.
D'accord.
Et je vous écoute.
Ok, bon alors je résume en quelques lignes. Mais en fait, je suis d'une famille aisée au départ, qui m'a abandonnée quand j'avais une quinzaine d'années, qui travaillait plus ou moins dans le milieu artistique. Et du coup, élevée sans amour, avec un milieu matériel très correct.
Attendez, qu'est-ce que vous appelez abandonnée à 15 ans?
Ah ben, ils m'ont abandonnée à la rue, en fait. Enfin, quelqu'un m'a recueillie, hein, qui sont devenus mes futurs beaux-parents, mais mise à la rue, oui.
Et pour quelle raison?
Eh bien, parce que je dirais, comme j'ai dit à votre collaborateur, que ma mère ressemblerait, enfin ma mère biologique, un petit peu à la folle coche de l'hyper au point, en fait, voyez-vous.
Ah, oui.
Donc, voilà.
Sympathique personnage.
Voilà. Donc, ne correspondant pas à leur image, selon elle, surtout puisque mon père était dominé, eh bien, voilà, un jour, ils ont inventé un argument pour me taper dessus et me dire par ma mère que si elle avait su, elle m'aurait étouffée et tuée à la naissance.
Ah voilà. Oui, charmant. Donc,
et donc, du coup, voilà, mes futurs beaux-parents m'ont recueilli. Enfin, bref, j'ai eu une vie professionnelle, enfin, qui est toujours très correcte. Hein. J'ai fait de grandes études. Mais néanmoins, bah, il y a toujours cette sécurité intérieure, insécurité intérieure, bah, qui me guette, quoi. Voilà, qui est
bah oui, comme c'est bizarre.
Et je le sais. Alors, du coup, j'ai toujours les quelques hommes que j'ai rencontrés dans ma vie parce que, voilà, le domaine sentimental n'étant pas ma priorité, je le comprends parce que voilà, j'ai toujours voulu une certaine sécurité matérielle avant tout. Mmh. Eh bien, j'ai rencontré des hommes plutôt ayant l'âge plus ou moins de mon père, voilà.
Oui.
Que mais... je pensais sécure, mais qui n'a pas été le cas malgré leur très haute responsabilité, voilà. Mmh.
Donc, ça veut dire quoi ? Vous avez quel âge aujourd'hui ?
J'ai 43 ans.
Vous n'avez pas construit de vie sentimentale privée ?
Non, en fait, bon, j'ai été mariée, mais pour qu'on puisse me donner une sécurité financière, hein, qui n'avait, voilà, qui n'avait rien à voir avec un amour conjugal, si je puis dire. Donc, avec, voilà, et cette personne à laquelle je pense, garde toujours une relation très forte avec lui, comme si c'était un frère jumeau. Mais au-delà de cela, non. Je n'ai jamais rencontré de personne à long terme. La plus importante, si je puis dire, a duré 4 ans avant mon départ en Espagne, voilà.
Oui. De ce que j'entends là de votre histoire, vous êtes toujours dans la réparation, mais pas dans la construction.
Sentimental, oui, certes. Ouais. Oui, c'est, ouais. Clair. C'est clair.
Vous semblez avoir enchaîné des schémas de réparation,
oui,
mais pas de construction.
Oui, que je pensais de réparation, mais qui finalement...
Non, que vous pensiez de construction, mais qui n'en était pas, en fait.
Voilà, j'ai espéré... refaire un schéma en rencontrant des gens qui ressemblaient finalement à mon père.
Et voilà.
Et voilà. Le dernier en date.
Tant qu'on n'a pas réparé une blessure, on est souvent dans ces schémas-là de réparation. Mais on ne construit, ouais, pas. On répare, ça casse. On répare, ça casse. On répare. Mais le problème, c'est qu'on ne répare pas la blessure originelle, normalement.
Tout à fait. Alors du coup, ben, je me suis, entre guillemets, réparée dans le travail, si je puis dire, voyez-vous, d'une autre façon en tout cas.
Et oui, là, il y avait une vraie sécurité qui ne dépendait que de vous.
C'est vrai ce que vous dites finalement, oui. Enfin, en tout cas, voilà, qui maintenant ne dépend que de moi alors qu'on a voulu me faire à l'image de mes parents biologiques pendant très longtemps, ouais. Ouais. Ainsi que d'autres personnes qui étaient dans mon entourage, en effet, oui.
Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en étant conscient déjà, et vous avez l'air de l'être extrêmement, vous avez fait plus de la moitié du chemin.
Et l'autre moitié, que puis-je faire ?
Et l'autre moitié, il fallait travailler un petit peu sur cette petite fille-là. Parce qu'à 15 ans, on est encore une petite fille quand on se fait jeter dehors comme ça.
Ah mais tout à fait.
Et c'est cette blessure-là, cette blessure-là qu'il faut réparer une bonne fois pour toutes.
Alors c'est vrai que j'aurais voulu que, je dis honnêtement, que mes parents biologiques meurent, ça aurait été beaucoup plus simple.
Je suis pas sûre, mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire, mais...
Non, 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 mais si vous voulez, pour moi, ça aurait été plus clair, si vous voulez, voyez-vous, voilà, à l'époque où je l'ai vécu, bon, maintenant, avec le temps, je n'ai plus de haine, je ne déteste plus, mais néanmoins, bah,
non,
évidemment,
mais,
on,
non,
on garde
mais,
les cicatrices.
Voilà. Ouais, ce que j'allais vous dire, c'est quand on vous écoute... on sent une femme qui est posée, qui a bien digéré les choses. Ça, c'est le côté intellectuel qui prend le dessus. Celui qui s'exprime et qui s'exprime bien. Mais il y a un côté émotionnel de l'autre côté. Et ce côté-là, il est encore en boule. En boule de colère, en boule d'injustice, en boule d'abandon.
Oui, c'est ça, l'injustice. Ouais, vous avez dit le mot. C'est pour cela que je suis contre toute injustice, finalement. C'est ma ligne de mire dans tous les domaines. Oui, oui, quelque part.
Et si ce n'est pas indiscret, vous faites quoi comme métier ? En tout cas, dans quelle catégorie, quelle branche ?
Ah, mais il n'y a pas d'indiscrétion dans cela. Je suis ingénieure en fusion nucléaire et doctorante en plasma, en fait, et en astrophysique.
Oui, d'accord. Donc, vous êtes allé très, très loin dans l'intellect.
Ben, si vous voulez, je sais pourquoi. C'est parce que tout ce que je n'ai pas réussi à construire dans le milieu sentimental, eh bien, j'ai construit dans le milieu matériel, si je puis dire, puisque je n'avais pas de sécurité dans l'amour.
Bien. Alors moi, je ne parle pas de matériel, là, j'aurais plutôt mis en opposition l'intellect et l'émotionnel. Vous avez verrouillé l'intellect, d'accord, le plus possible pour ne pas souffrir de l'émotionnel. Mais je vous rappelle que notre partie intellectuelle ne gère que 15% de ce que nous sommes. 85% sont nos émotions. Mmh. Et donc la partie intellectuelle, chez vous, elle va très très bien. La partie émotionnelle, elle est encore blessée.
Et comment dirais-je ? quel serait le résultat d'une, d'une réparation émotionnelle, enfin,
vous mettriez à rencontrer des conséquences. J'aime bien, le terme légèrement négatif de conséquences. Les avantages, peut-être.
Les avantages, oui. C'est vrai que c'est un petit peu scientifique quand je dis les conséquences, oui.
Vous ne seriez plus dans la réparation, mais dans la construction. Ça veut dire que vous, comme par hasard, vous vous mettriez à rencontrer des gens, d'abord peut-être dans une tranche d'âge plus proche de la vôtre, avec qui il y aurait une vraie construction. Qui ne serait pas là inconsciemment pour réparer quelque chose qui ne va pas chez vous, mais pour partager des choses qui vont bien.
Oui. Ah, mais le départ à l'étranger en Espagne, qui n'est pas un pays pris au hasard, puisque ce sont en partie une de mes racines, l'autre étant en Russie, ça m'a fait prendre conscience que de toute façon, ce n'est pas. Enfin, je pensais avoir une petite réparation par rapport au dernier homme que j'ai rencontré, mais voilà.
La réparation ne peut pas venir jamais de l'extérieur.
Exactement.
Ça déborde jamais.
Non, mais tout à fait. Ouais.
On a souvent tendance à croire que l'autre est là pour réparer quelque chose. Ce n'est pas le cas. C'est quand
mais
on est réparé soi-même qu'on arrive à construire avec l'autre.
Alors, justement, j'allais vous dire que je commence à me réparer parce que voilà, maintenant, je suis tranquille, si je puis dire. Mais
vous êtes quoi ?
Non, je semble beaucoup plus tranquille depuis que je suis partie de France. Hein, oui, mais néanmoins, ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas, pour l'instant, envie de rencontrer des gens parce que ma priorité sont, entre guillemets, sont les équipes puisque je me forme sans cesse. Et du coup, j'en fais ma priorité que je travaille très, très, très souvent, quoi, et un petit peu le dimanche, etc. Donc, c'est pour combler un vide que je comble par le travail. Ouais. Oui.
Est-ce que vous aimez lire ?
Oui.
Je vous conseillerais bien un livre. Vous savez que j'aime beaucoup Jacques Salomé, qui est un de mes maîtres à penser.
Oui.
Il a écrit un très joli livre qui s'appelle « Le courage d'être soi ».
D'accord.
Je ne sais pas pourquoi, c'est j'ai une inspiration que c'est un livre qui vous ferait du bien. « Le courage d'être soi » de Jacques Salomé.
Je vais le lire.
« Prendre votre place dans votre vie
ouais. ».
Vous savez cette place qu'on vous a refusée il y a très longtemps ?
Oh. Oui, c'est vrai.
Hein ?
C'est vrai. Et surtout qu'on ne m'a pas finalement quelque part donné le droit de vivre, parce que ma mère m'a dit « voilà ». Logique, j'aurais dû t'étouffer à la naissance si j'avais su. Donc finalement,
bon, vous avez bien
c'est compris
comme si
que j'avais
pas vu. Vous avez bien compris que c'est une mère malade qui s'exprime comme ça.
Ah oui, non, mais c'est une femme qui est perverse narcissique, donc elle est née comme ça, elle mourra comme ça, ça. Mais bon, néanmoins, quand on est enfant à 15 ans, ça a du mal à passer,
bien
quoi.
Sûr. Elle ne vous a pas autorisé à vivre et à prendre votre place, mais vous pouvez le faire pour vous aujourd'hui.
Oui.
Il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous-même.
C'est-à-dire que concrètement, il serait souhaitable que je voie quelqu'un.
À votre avis ?
Oui.
oui, je pense aussi, oui.
Pas forcément
thérapie longue, mais je pense que ça serait bien de vous faire
oui.
un petit peu.
Hein. Oui, alors j'allais vous dire, ça va, parce que je suis, pas hyper active, mais voilà, je m'ennuie très vite. Donc si ça commence à durer des mois et des mois, ça ne va pas le faire, parce qu'en fait, j'ai vu une psychologue il y a une vingtaine d'années. Il m'a dit, de toute façon, c'est pas vous d'être là, c'est à votre mère. Ce qui n'était peut-être pas faux. Elle m'a
certes,
fait passer
un test. C'est un peu simple, ouais, bien sûr.
Voilà.
Non, tournez-vous vers des thérapies plus rapides à ce moment-là, plus brèves.
Vous pourriez me donner le nom de thérapie. Je chercherai en Espagne, près de là.
Vous pouvez trouver des thérapeutes qui font des thérapies orientées solutions. Vous pouvez faire de l'hypnose, vous pouvez faire de l'EFT pour retrouver la confiance en vous.
EFT, d'accord.
Emotional Freedom Technique. Technique de libération émotionnelle.
D'accord.
Vous trouvez une psychothérapeute qui pratique aussi ça en plus. Ça va plus vite, ça accélère un peu le mouvement.
D'accord. Donc, je ne suis pas un cas désespéré.
Il n'y en a jamais de cas désespéré. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Faut juste
non, non, je plaisante de tout cela, évidemment. Enfin, voilà, oui. D'accord. Bon, écoutez, Sabine, je ne vais pas vous prendre davantage de votre temps, car l'émission se termine.
Il nous reste une minute, effectivement, le temps que je dise au revoir à tout le monde, et l'émission se termine déjà. Le temps passe tellement vite quand on est ensemble, c'est fou.
Eh bien oui.
En tout cas,
je vous remercie de votre conseil.
Merci de votre appel. Prenez soin de cette partie-là de vous, et ouvrez-vous, autorisez-vous à vous ouvrir à des choses sympathiques et heureuses.
D'accord, eh bien merci beaucoup Sabine.
Je vous embrasse.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir Déborah. Merci à vous, merci à Marie, à Guillaume, à Geneviève, à Corinne d'être venus ce soir partager tous ces moments précieux. Merci à tous ceux qui ont participé par SMS. Je vous rappelle que demain soir, c'est Sophie Peters que vous retrouverez avec plaisir, je le sais, à partir de 22h30 à ce micro. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain à partir de 23h pour de nouvelles confidences. Et d'ici là, je vous quitte avec une petite phrase que j'aime bien. Il arrive que l'on pleure, non pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on a été fort trop longtemps. Passez une bonne nuit et à vendredi prochain.